Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver pendant 2 heures et quel bonheur de réentendre les meilleurs moments de Tim Dugas. L'émission, c'est en direct du lundi au jeudi entre 18h et 20h, même lorsqu'il n'y a pas de match en France. Et le samedi, le dimanche, on se remémore les meilleurs moments. À 19h, un débat original puisqu'on s'est attardé sur la carrière non pas d'un joueur, non pas d'un entraîneur, non pas d'un président, mais d'un commentateur. Le commentateur mythique des exploits du foot français, Thierry Roland. Son partenaire de l'époque, Jean-Michel Larquet, était avec nous dans Tim Dugas et on s'est interrogé. Était-ce le meilleur dans son rôle? Le débat, c'était à 19h jeudi. On se le remet dans l'oreille tout à l'heure après les infos de 19h. D'ici là, journal moyen, l'actu lyonnaise, Juninho a encore tapé du poing sur la table. Il veut changer les mentalités. Peut-il y parvenir? Ce sera le débat tout à l'heure. Mais on va débuter par André Villas-Boas et son profil d'entraîneur atypique, pas forcément carriériste. Est-ce rafraîchissant? On en a débattu. On a aussi commenté l'actu et nos infos Ligue des Champions sur la reprise de la compétition. C'est avec Mohamed Bouafsi cette semaine, Jérôme Rotten et Christophe Dugarry. L'actu de la journée, c'est les infos RMC Sport de Mohamed, donc sur la reprise de la Ligue des Champions. On a quelques infos pour le mois d'août.
Oui, il y a un plan qui se dégage, messieurs, pour la reprise de la Champions League. Une Champions League qui devrait se tenir du 3 au 23 août dans quelques semaines. Cela devrait être validé la semaine prochaine lors d'un comité exécutif de l'UEFA qui va se tenir le 17 juin. Donc c'est une grosse tendance du 3 au 23 août avec ce fameux match entre la Juve et l'Olympique Lyonnais entre le 4 et le 7 ou 8 août. Et ensuite l'entrée du PSG à partir du 12 août. Et la surprise et la grosse tendance du gars Jérôme, c'est que ce serait un Final 8. Donc des matchs de quart de finale et de demi-finale en un match simplement, pas de match aller-retour. Cela devrait se jouer
sur un même lieu.
Oui, sur un même lieu. À Lisbonne, c'est la tendance. Il y a une solution de repli qui est du côté de Francfort en Allemagne. Et dans ce fameux comité exécutif de la semaine prochaine, on va aussi discuter des supporters. Est-ce qu'il faut autoriser les supporters dans le stade à Lisbonne ou à Francfort? Et petite information qui confirme ces tendances-là, c'est que la Ligue de football professionnel et la Ligue 1 devraient mettre les matchs de la première journée, donc le week-end du 21, 22, 23 août, à des horaires différents pour respecter les matchs de championnat. Donc à 19h et non pas à 21h. Finale de Ligue Europa le vendredi 21 à 21h et finale de Ligue des Champions le dimanche 23 à 21h.
Quelle est votre première réaction? Vous trouvez ça dommage qu'on passe par un Final 8 donc et que la compétition ne soit plus la même qu'avant avec des matchs secs en quart et demi?
Bon, est-ce que tu avais le choix, mon Jean-Louis? Non, bon, ça va faire une belle compète. Voilà, Final 8, ça va être passionnant, ça va être intéressant. Voilà, ça restera des belles équipes. Bon, voilà, fallait faire quelque chose. C'est la moins mauvaise solution. C'est sûr que de toute façon,
ça va pas dévaluer la victoire du futur vainqueur.
Et le futur vainqueur, ben si, bien sûr que le futur vainqueur, ben ça sera moins prestigieux, mais ça restera quand même une belle ligne dans le palmarès. Mais ça sera forcément moins prestigieux. Et oui, et ça sera, après, il va falloir s'adapter aussi sur un match. Comment ça va se jouer? Ça sera peut-être un peu plus spectaculaire. Il y aura moins de calculs. Non, c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein.
Moi, ça me choque pas. Ça pense quoi, Jérôme?
Écoute, on s'y attendait plus ou moins. Alors, on avait entendu parler d'un Final Four plutôt au départ. Après, en effet, comme le dit Mohamed, c'est un Final 8. Le problème à
voilà
ça, c'est que
anglais.
Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Je dois être bilingue comme toi en fait. Voilà, je pense que ma période écossaise a été comme la tienne en Angleterre, pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à saisir. Je comprends Dugas ce qu'il dit par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, parce que il existe encore ce virus. C'est pas réglé partout, mais on va dans le bon sens quand même. Et vu qu'on va dans le bon sens, je me dis que pourquoi pas avoir essayé d'avoir gardé plus ou moins la formule qui était celle prévue, quoi, avec des matchs. Alors moi, on me dit c'est en termes de calendrier, c'est compliqué de faire des matchs aller-retour, de passer d'un pays à l'autre. Peut-être que toutes les frontières ne permettront pas ça au mois d'août. Et encore, ça, j'en doute, parce que apparemment, on parle même dans certains pays et même en France de remettre du public fin juillet dans les stades. Donc, je me dis.
Disons que si tu veux faire ça, il faut commencer vraiment mi-juillet, quoi. Tu vois,
il y avait quelque chose à faire. il y avait quelque chose au moins à faire pour le quart de finale. Après, si tu veux organiser une finale à 4 sur un lieu comme à Lisbonne, là, avant c'était Istanbul, maintenant c'est Lisbonne ou l'Allemagne, pourquoi pas. Mais à 8, ça
fait
me dérange un peu.
Coupe, ça
mais
fait bon. Une formule Coupe du Monde, une formule Championnat d'Europe, de la grosse compétition internationale. Bon.
Moi, je suis pas sûr qu'il y ait plus de spectacle, comme tu l'as dit, Dugas.
Non, tu crois pas?
Bah, sur un match sec, justement, tout le monde va avoir peur de. Non? Ouais, les matchs de Coupe du Monde, les matchs à élimination directe, c'est pas les plus spectaculaires à ce moment-là.
Après, elle sera un peu, bah, ce sera un quart de finale, à partir de les quarts de finale, c'est en général pas mal, mais après, elle sera un peu dévaluée aussi, cette Ligue des Champions. Il y a peut-être des équipes qui vont se lâcher en se disant, bon, voilà, elle est un peu tronquée, cette Ligue des Champions.
Peut-être,
je sais pas.
Non, mais ça peut rendre des matchs un peu fous, hein, on est d'accord. En plus, je dis pas que les équipes vont arriver à 50% de leurs moyens physiques, mais elles seront pas à 100% pour la plupart.
Ouais, mais donc, si tu l'équipe, imagine une équipe qui doit affronter le Paris Saint-Germain ou Lyon en espérant qu'ils se qualifient. Ouais. Il faudra mettre l'intensité parce que tu sauras que le Paris Saint-Germain ou Lyon, ils n'ont pas eu de super préparation, ils ne sont pas au top physiquement. Ça va dépendre des niveaux de forme des uns et des autres. Et puis,
c'est même plutôt une bonne nouvelle pour le PSG et aussi pour Lyon. Ouais. Parce que quand on parle de manque de rythme, sur un match, c'est beaucoup plus facile à gérer que sur deux matchs.
C'est clair.
Et donc, Paris n'a jamais été aussi proche de gagner la Champions League. En trois matchs, le PSG peut remporter la Champions League.
Problème, Momo, là-dessus, c'est que, en effet, moi, je te rejoins sur le premier match parce que tu peux être surprenant. Même toi, des fois, tu te surprends après une préparation où t'as eu très peu de matchs à faire un match, un très grand match.
Il n'y a que Jean-Luc qui ne surprend jamais.
Le problème c'est de remettre ça 3-4 jours après pour le PSG, je le souhaite qu'ils gagnent déjà ce quart de finale et qu'ils arrivent en demi-finale, mais le quart de finale, la demi, ça arrivera 4 jours après, on est d'accord.
Ça
va aller vite,
du 12 au 23. Le PSG est attendu le 12. Donc 12, 13, 14, 15, il y aura les demi. Et après, il y aura. Non, les quarts, pardon. Et après, il y a la demi qui va arriver le 17 ou le week-end du 17-18. Et après, on va jouer la finale le 23.
La difficulté dans ces cas-là, quand t'es pas prêt à 100%, c'est d'enchaîner. Bien sûr, le match entre les deux, c'est le plus dur. Hein. Pour le PSG,
Jean-Michel Aulas.
Pour Lyon, parce que Lyon peut se qualifier.
Jean-Michel Aulas a annoncé l'organisation de tournois au mois de juillet lors de la conférence de presse de présentation de Kadewere, la recrue, disant
un beau tournoi de sixte avec
8 équipes réparties en deux groupes. On va faire ça garçon-fille, tout ça au Groupama Stadium. Donc il est prêt à s'organiser.
Il a dit ça dans le sens où il essaye de confirmer ce tournoi avec le PSG. Du gars, quand on parlait de la difficulté des matchs amicaux, ils sont en plein dedans. Ils n'arrivent pas à trouver d'équipe pour jouer ce fameux tournoi. Il manque encore 6 équipes pour disputer ce tournoi la semaine du 25 juillet et c'est très 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 compliqué à organiser.
Bon, voilà pour ce calendrier et le mois de et l'été qui arrive. Oui, Nugat, tu voulais ajouter un mot?
Non, mais si tu te tapes le PSG sur des matchs amicaux comme ça et tu prends que des tartes, faut prendre un peu confiance quand même, faut arriver à gagner quelques matchs.
Tout à fait. Peut-être qu'ils vont tenir compte. Ouais. Alors, Villas-Boas, tout de suite, on n'a pas réagi aux récentes déclarations de l'entraîneur de l'OM sur la suite de sa carrière. Villas-Boas dit que sa carrière d'entraîneur porterait sur 15 ans. Alors ça, il l'avait déjà dit. Du coup, il dit, on peut imaginer une fin de carrière en 2024 pour moi. Je fais encore un an à Marseille. Ensuite, j'aimerais bien faire une expérience exotique au Brésil ou au Japon, dit-il. Et ensuite, ce sera peut-être le moment d'accomplir son rêve qui est de devenir président de Porto un jour. Alors, est-ce que cet état d'esprit, qui est quand même très rare chez les entraîneurs, on les voit souvent courir après les contrats, les clubs, les façons de rebondir, etc. Est-ce que cet état d'esprit atypique est rafraîchissant? Ce discours est-il rafraîchissant? 32-16 pour en débattre. Mohamed, tu restes avec nous, toi qui connais bien Villas-Boas. Dugas, c'est rafraîchissant d'entendre ça?
Moi, je trouve ça bien. De toute façon, je crois qu'il faut pas être, il y a pas que le foot dans la vie, quoi. Il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Et moi, je trouve ça plutôt enrichissant. Je trouve ça plutôt bien. Après, quand tu peux te permettre de le faire et d'avoir de fixer des objectifs ou des challenges dans ta vie, qui sont différents que de ce que tu as vécu. Moi, je trouve ça plutôt bien. C'est aussi un peu comme ça que je fonctionne. J'aime bien fonctionner par cycle et me mettre des objectifs différents, et puis après ça n'empêche pas de revenir si ça te plaît pas sur certaines choses ou sur certaines décisions, donc Moi, je trouve que dans la vie, quand tu peux te le permettre, c'est bien de pas être prisonnier de quelque chose. Voilà, le foot, c'est moi, c'est ma vie. Mais je pense que malgré tout, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il faut essayer d'aller goûter à autre chose, d'aller découvrir autre chose. Il y a des gens pour qui c'est pas possible et ils oseront jamais partir. Ils pourront jamais partir parce que professionnellement, c'est pas possible. Le foot te permet ce genre de choses parce que tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent assez rapidement. Et il faut pas que ce soit toujours une espèce de course à toujours à vouloir en gagner plus. Moi, j'ai toujours été choqué, sincèrement, je te le dis, mon Jean-Louis, par des entraîneurs, par exemple, italiens, comme Capello, comme ouais. Lippi, qui sont des immenses entraîneurs, qui ont gagné des sommes astronomiques, et qu'aujourd'hui, je les vois partir en Chine. Alors, je me dis, bon, la Chine, pourquoi pas, tu tentes l'expérience, mais arrêtons de me faire croire que tu vas en Chine pour le football.
Pour développer le foot là-bas.
Voilà, ça, c'est des conneries absolues. Après, moi j'ai toujours, ça me fait toujours un peu pitié, les gens qui veulent gagner plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, au bout d'un moment, tu vas finir quoi, par le plus riche du cimetière. Je trouve ça un peu naze et sincèrement je trouve ça limite ridicule au bout d'un moment. Et c'est, il y a des choses dans la vie, ta famille, tes petits enfants, voilà, d'essayer de te confronter à quelque chose que tu connais pas, voilà, le monde t'offre tellement de possibilités quand t'as les moyens de le faire. Donc moi j'aime ces gens qui pensent à autre chose que toujours la même chose, les entraîneurs qui courent après leur contrat. J'aime pas cette façon de voir et de faire. Donc je trouve ça super qu'il y a un homme dans le football qui pense différemment que de ce que proposent les autres.
Jérôme, t'es d'accord avec ça ?
Pas surtout. Après que ça soit rafraîchissant, je sais pas. En tout cas, moi, je préfère des hommes passionnés. Alors, je dis pas qu'il est pas passionné, hein, André Villas-Boas, mais son discours, il pue pas l'amour du foot quand même, tu vois. Donc de dire bon bah ouais. Ma carrière d'entraîneur c'était tant. Là, il me reste un an. Derrière, j'ai d'autres objectifs. Alors oui, qu'il ait un objectif à moyen ou long terme d'une ambition plutôt d'être président de Porto, ça se respecte. Maintenant, quand tu deviens président, c'est sûr que t'es plus au bord du terrain, c'est ton quotidien. Quand t'es entraîneur, tu deviens entraîneur. Moi, tous les entraîneurs que j'ai eus, et même encore ceux qu'on voit aujourd'hui, comme dit Dugas, qui passent d'un club à un autre, mais c'est des passionnés, c'est des gens qui se nourrissent du foot et qui donnent énormément au foot. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui montrent la voie. Moi, je suis un peu indécis là-dessus sur ce discours. En tout cas, moi, je trouve ça, même pour Marseille, parce que c'est bien qu'il soit resté. Moi, je suis le premier à le défendre par rapport à ce qu'il a fait cette année à Marseille avec son groupe de joueurs. Mais les Marseillais, en fait, tu peux pas t'inscrire dans la durée avec un mec comme ça. C'est un one shot. Il va faire un an. J'espère du mieux possible. Et puis ils savent que l'année prochaine, de toute façon, il va se barrer. Donc, tu peux pas t'identifier à cet entraîneur-là quand t'es un club comme l'Olympique de Marseille. Ben ouais, mais moi, ça me dérange. Tout ça, ça me dérange, surtout quand t'as la chance, parce que c'est une chance pour ces mecs-là, d'entraîner les meilleures équipes.
Après, les mecs, ils lâchent plus. Alors, là, ils sont tellement usés, Jérôme, ils lâchent plus l'affaire.
Non,
aussi.
Mais d'accord, non, mais je comprends.
Au bout d'un moment, je comprends bien la patience. Mais la patience, c'est dur d'être. Faut garder un peu de fraîcheur aussi.
Oui, non, mais là, je te rejoins, mais par moment, sur certains, moi, c'est ce que je reproche, tu le connais mieux que moi, hein, Laurent Blanc, tu vois, c'est ce que je lui reproche, je me dis, mais comment tu peux rester autant d'années après le Paris Saint-Germain sans contrat? Il a eu des propositions, alors peut-être qu'il en a pas senti certaines.
Parce qu'il fait pas sa vie, selon le foot.
Alors non, mais c'est un choix, ça se respecte encore une fois, mais moi je vois pas le foot et je vois pas le métier d'entraîneur comme ça. En fait, moi je pense que les entraîneurs, et encore plus que les joueurs, c'est à eux de montrer la voie, c'est à eux de montrer, encore plus que les présidents, montrer la passion qu'ils ont pour le football. Et à travers ces discours-là, j'ai pas l'impression que ça soit ce que tu remettes en avant. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Après, l'autre, je respecte.
Jérôme, sauf si tu le dis dès le départ. Et la chance, en tout cas, ou la qualité de Villas-Boas, c'est qu'il a tout de suite dit aux supporters marseillais. Moi, je me souviens l'avoir rencontré pour l'émission Comme Jamais. Il avait dit tout de suite, je resterai 2 ans maximum et ensuite je partirai parce que je rêve de Porto. Donc au moins les supporters le savent directement et c'est pas n'importe qui. Il l'a fait pas à l'envers. Et surtout, c'est un entraîneur qui a de la fraîcheur. Et le dernier élément du gars, c'est que Villas-Boas, il sait qu'il a touché beaucoup d'argent. Il le dit, il est honnête, il est parti en Chine pour l'argent. Il le reconnaît. Il dit qu'il a la fierté d'être resté l'entraîneur le plus cher au monde quand il est parti de Porto à Chelsea avec une clause à 15 millions et qu'il a juste envie de profiter de la vie désormais, de refaire le Dakar, de découvrir le Brésil ou le Japon. Japon. Et à un moment, le foot pour lui, c'est pas sa, j'ai pas à dire aujourd'hui c'est sa priorité, mais dans quelques années, il m'avait dit, moi c'est mes enfants, c'est de profiter de certains moments et de ne plus être sur le bord du terrain chaque week-end.
Il veut vivre quand même.
Voilà. Tu le vois sur certains entraîneurs qui te disent, moi j'attends un projet, et puis à l'arrivée les projets ils vont là où c'est le mieux, oui. Où ça, voilà, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont que ça dans leur vie, que le foot. Au bout d'un moment, c'est bon. Je trouve que Villas-Boas, pour le coup, il a le mérite d'être honnête. Ça lui donne une certaine fraîcheur aussi dans ses analyses, dans ses discours, dans ses conférences de presse. On voit qu'il est pas en train de ménager Pierre, Paul, Jacques pour essayer de retrouver un club derrière. Excusez-moi, je préfère le discours de Villas-Boas. C'est pour ça qu'il est peut-être beaucoup plus clair et que ses joueurs apprécient, que celui de Rudy Garcia qui est capable de retourner sa veste. Non, mais voilà aussi l'OM après Lyon, après voilà, il sait même plus s'il confond Lyon et l'OM dans ses voilà. Au bout d'un moment, je préfère un entraîneur comme ça.
On va prendre l'avis de Vincent qui nous rejoint au 32-16. Salut Vincent, bienvenue dans Team Duga.
Merci beaucoup.
Salut tout le monde. Salut Vincent.
Moi, je suis assez d'accord avec la vision de Villas-Boas. Comme vous le disiez avant, je suis plus pour un entraîneur comme ça qui va dire j'aimerais bien faire ça, et puis finir ici. Plutôt que, comme le disait Duga, un Rudy Garcia qui va à gauche, à droite, et il se perd, il sait même plus ce qu'il dit, c'est même. Et c'est surtout que, en plus, il y a beaucoup d'entraîneurs, je pense à des entraîneurs qui sont âgés maintenant, je pense à Ranieri ou des choses comme ça, qui s'entêtent parfois à mettre un style de jeu, à imposer leurs pattes dans des clubs qui n'accepteront jamais ça, et ça peut aussi leur porter préjudice. Autant lui, il gère sa façon d'entraîner, il a dit sur 15 ans, il va le faire sur 15 ans, et après peut-être que le football aura encore changé, peut-être que les nouveaux joueurs auront mis un nouveau style de jeu, et au moins lui il aura fait son truc, et ces 15 années, il aura été entre guillemets bon, il aura fait des bonnes choses, et il ne se prendra pas la tête par la suite.
Et puis sincèrement, un entraîneur, est-ce qu'il est capable d'évoluer? La question, elle est peut-être là aussi, dans sa façon d'entraîner. L'entraîneur, quand je vois aujourd'hui Capello ou Lippi en Chine, ils ont 72, 73 ans. Il ne faut pas me faire croire qu'ils ont évolué avec le football. Et les entraîneurs, souvent, ils ont une façon de voir leur foot, leur organisation. Le caractère des joueurs aussi a beaucoup évolué. Le football a aussi beaucoup changé. Je ne suis pas persuadé que passer 30, 40 ans dans le football, au bout d'un moment, tu es toujours aussi bon, tu es toujours aussi pertinent, percutant, le discours fonctionne toujours avec ces joueurs-là. Au bout d'un moment, il faut laisser la place aux autres. Quoi.
Non, mais 10, Duga, là, tu prends l'extrême.
C'est bon, allez, rideau. Allez.
Non, mais tu prends l'extrême. C'est vrai qu'eux ont un certain âge aujourd'hui, ils continuent d'entraîner, ils ont fait un choix financier. Ok, mais ça, je peux comprendre là-dessus. Maintenant, après, il y a aussi le côté de ces mecs-là, même s'ils sont aujourd'hui très fatigués, ils te mettent quand même en avant l'amour qu'ils ont pour ce football, du moins. Pour eux, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est leur vie. Le foot, c'est leur vie. Mais ça se respecte aussi.
Oui, il en faut aussi.
Il ajoute, Jérôme, il ajoute les actes à la parole, parce que Villas-Boas, il aurait pu accepter une offre de Newcastle cet été avec un énorme salaire pour partir en Angleterre, revenir en Première Ligue. Il a dit, non, la Première Ligue, et d'ailleurs, il l'a dit.
On le sent libre, Villas-Boas.
Ouais, non, mais il dit la Première Ligue, ça m'a déçu. Et il a même dit, ça m'a saoulé. Voilà, le niveau de jeu, c'est trop compliqué. Ça fait que s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas forcément de jeu, j'ai plus envie de ça. Et le dernier élément, il adore Porto, il adore sa ville, il est fou amoureux de son pays, fou amoureux de sa ville. C'est un vrai, un vrai supporter du club.
Comme Jérôme avec son chien, quoi, qu'on entend.
Ouais, ou avec le PSG. Voilà.
Oui, il les aime les deux pareil, c'est sûr.
Mais non, parce qu'en fait, il a entendu Porto et tout de suite il aboie. Je sais pas pourquoi.
Je croyais qu'il avait entendu Mohamed et qu'il avait aboyé pour ça. Ça m'étonnerait quand même.
Non, pas du tout.
Merci Mohamed. Merci Vincent également d'être venu au 32-16. À bientôt. Salut Vincent. Voilà donc pour ce débat autour d'André Villas-Boas. On revient dans un instant avec Juninho. Il l'a dit clairement en conférence de presse. Ceux qui ne sont pas contents d'être à Lyon peuvent partir. Il veut changer les mentalités, mais peut-il y parvenir? À tout de suite pour le débat.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Le meilleur de Team Duga, c'est aussi le meilleur du journal moyen. Rendez-vous à 18h45 avec Adrien Aigouin qui était en forme cette semaine. Avant cela, le débat autour de Juninho. Peut-il changer les mentalités? Jérôme Roten, Captain Larquet et Christophe Dugarry ont répondu à cette question. Juninho a mis la pression hier lors de la présentation de la recrue. Donc le Havrais, Tino Kadewere, propose de l'écouter et apprendre en débat.
Allô?
Oui, allô.
Si les joueurs ne sont pas contents d'être là, il faut qu'ils partent. Et je pense que des joueurs comme Tino, à part la qualité, il va nous apporter d'autres choses sur le terrain. Ça sent sa joie d'être là. Et on a envie d'amener des joueurs comme ça parce que La saison, elle n'était pas l'idéal, même si elle a été avant 10 matchs. Donc, mais on a envie de faire quelque chose de meilleur cette saison.
Voilà. Alors qu'on lui posait une question juste sur le profil de la recrue, il dit voilà, lui il a envie d'être là et en gros ceux qui sont pas contents, eh bien qui s'en aillent. De nouveau, on a l'impression donc que Juninho veut changer les mentalités. Peut-il y parvenir? 32-16 pour en débattre. C'est son leitmotiv,
oui.
Mohamed.
Ouais, depuis la fin de la saison dernière, c'est son leitmotiv. Il l'avait dit, il avait fait un audit du gars Jérôme Captain sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Il trouvait que ça manquait de courage, que cette équipe manquait de courage, qu'il y avait pas de motivation, que parfois c'était compliqué de jouer, d'évoluer dans cette équipe et qu'il y avait des joueurs qui étaient trop gâtés. Il l'expliquait en privé au staff technique et d'ailleurs c'était pour ça aussi qu'on avait choisi Silvinho, un entraîneur capable de mobiliser les joueurs. Ça n'a pas marché. Ça a été une erreur et donc il a souhaité l'été dernier avoir des joueurs qui avaient un peu plus de caractère et notamment aussi au mercato d'hiver avec l'arrivée de Guimarães qui est un joueur quand même de caractère dans un vestiaire. Il a voulu aussi, il a tenté avec Thiago Mendes. Là, ça a été un échec réel. Il a voulu prendre des joueurs de caractère. Ça n'a pas forcément fonctionné l'été dernier. Et là, c'est la même chose. On a envie, on cherche dans les profils que l'OL prospecte des joueurs de caractère. Vraiment, c'est la volonté, l'ambition du club.
Alors, est-ce qu'il peut y parvenir, Duga? Juninho va changer les mentalités.
Excuse-moi, mais c'est exactement le rôle qu'il doit avoir. C'est l'essentiel de son job. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets Juninho en tant que directeur sportif, c'est pour ça. C'est parce que les joueurs ont besoin d'entendre un ancien sportif, un ancien joueur, a fortiori une légende du club. Et lui, son rôle, c'est d'accompagner les jeunes vers une mentalité de winner, de gagnant. C'est l'essentiel de son job. Et moi, c'est le football que je veux retrouver. C'est pour ça que moi, j'ai envie, quand je me bats maintenant depuis quelques semaines pour que le football redevienne aux footballeurs, parce que je pense qu'aux footballeurs d'aujourd'hui, il faut leur parler football. Il faut leur parler mentalité, il faut leur parler caractère, parce que c'est ça, c'est le plus important. Des joueurs talentueux, tu peux en trouver, c'est pas le plus compliqué des joueurs talentueux. C'est, ce qu'il faut, c'est, ça doit être une, quand je dis une aventure humaine, elle est là, l'aventure humaine, quand t'as ton directeur sportif qui va te parler aux joueurs, qui va t'accompagner, qui va être là pour régler les problèmes, quand t'auras des questions, quand t'auras des doutes, et bien ton directeur sportif, avec la carrière qu'il a eue, sera capable de te parler, sera capable de te diriger, sera capable de te rassurer. C'est ça le rôle d'un directeur sportif, c'est ça le rôle qu'on veut avoir un petit peu à l'ancienne. On n'a pas pris Juninho pour ses contacts à droite ou à gauche, même si il en a quelques-uns, il était à Los Angeles en train de jouer de la guitare, donc c'est peut-être pas ça son où il est le meilleur. Mais au bout d'un moment, le travail d'un directeur sportif dans un club, pour moi, il est celui-là. Juninho le résume. Et il a vu les manques de son équipe, mais c'est le manque de beaucoup d'équipes et de beaucoup de joueurs actuels et certainement encore plus en Ligue 1. Une mentalité de winner. Qu'est-ce qu'on a gagné en 98? Qu'est-ce qu'on a appris? On disait la culture de la gagne. On a appris cette volonté de chaque minute passée à l'entraînement. C'était pour gagner quelque chose. C'était pour gagner un match à l'entraînement. C'était pour gagner un taureau. C'était pour gagner, finir sur une séance de tir au but, d'être celui qui gagnait les tirs au but. C'est ça, au bout d'un moment, qu'il faut inculquer et qu'il faut retrouver. Et que moi, je trouve que la Ligue 1 a perdu parce que, pourquoi? Parce qu'en face des joueurs, t'as des financiers, t'as des mecs qui sont là pour faire du business, qui sont là pour faire du trading. Donc les joueurs font du trading et les joueurs font du business. Il faut revenir à une mentalité.
Donc quand
de
tu dis ça, c'est le président qui en gros voit son joueur que par la valeur marchande et le futur transfert.
Et le directeur sportif, c'est la même chose.
T'as maintenant et du coup, on lui passe trop de choses.
Et t'as des directeurs sportifs maintenant qui sont intéressés sur la revente des joueurs. Donc qu'est-ce que tu vas lui parler football? Qu'est-ce que tu vas lui le mec? Tu parles argent ou tu parles football? On en est pas là. Souvenons-nous, on a parlé de Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qu'il allait voir ses joueurs chez eux, il frappe à la porte à 19h, il disait bon, mais je viens chez vous, je viens boire l'apéro. Non mais voilà, au bout d'un moment, il faut revenir à ça. C'est ce football qu'on a envie d'avoir. Il faut que ce soit un pacte entre le directeur sportif, le président, le joueur, les supporters, les salariés. Il faut revenir à ça. Et si Juninho arrive à faire ça, je trouverai ça tout simplement génial.
Jérôme, c'est possible de faire ça avec la mentalité des joueurs aujourd'hui?
Non mais Duga a bien résumé. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant le discours de Juninho? Je pense que ça c'est le leitmotiv de.
Ne pas répondre
de
à ma question plutôt.
Sportif. Non, de quoi?
Est-ce que c'est possible de le faire avec la mentalité des joueurs aujourd'hui, de changer ses mentalités?
Mais tout est possible.
Mais tout est possible. Le tout, c'est que Juninho, bien sûr que c'est son rôle de le répéter, de prendre des joueurs avec Bruno Chéreau aujourd'hui. Avant, c'était avec Maurice. Je pense que Maurice a eu des failles là-dessus, c'est de ramener dans cet effectif lyonnais. Et de toute façon, on l'a senti sur les dernières années. Il manque du caractère, il manque de joueurs qui aient haïssent la défaite, ils se nourrissent qu'à à travers les victoires pour pousser les autres, pour pousser les jeunes. Moi, je veux bien qu'on cite comme exemple Kadewere qui vient de signer. Mais c'est un jeune joueur. Heureusement qu'il est content, lui, quand il arrive du Havre. En signant à Lyon, il passe d'une Ligue 2 à un club comme l'Olympique Lyonnais, qui est le deuxième ou troisième meilleur club français. Donc, automatiquement, il a la joie de vivre. Le tout, c'est de garder cet enthousiasme et cette fraîcheur pendant quelques mois et pas que de l'avoir sur les deux premiers mois. Parce qu'après, t'as l'impression que ça s'effrite à Lyon. Et la mentalité, elle est essentielle, mais elle va pas être amenée par Kadewere ou ces jeunes qui vont arriver. Elle va être amenée par des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont un statut dans le vestiaire et sur le terrain et qui vont accompagner ces jeunes-là pour que eux gardent dans la tête, parce que à 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu sais pas ce que c'est la soif de victoire, cette mentalité de la gagne, refuser la défaite.
Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que sa phrase, elle veut rien dire quand il dit lui, il est content.
Non, c'est pas
tout le monde sera content. Non. C'est évident que lui va être content. C'est pas lui
exactement,
qui va faire changer
la mentalité.
Kadewere.
C'est évident qu'il va être content.
Bah oui.
Non. Il en sait rien. Mais il en sait rien.
De quoi?
Mais
comment ça?
Mais pourquoi?
Mais comment?
Pourquoi
il est content, Kadewere, quand il signe à Lyon?
Bah, il est content, mais c'est pas quand il signe qu'il faut qu'il démontre qu'il est content.
Bah, c'est ce
qu'on
te dit.
C'est quand il joue. Alors, là, vous êtes en train de me dire, oui, il est content. Heureusement qu'il est content de signer un contrat qu'il mérite, et peu importe le montant de sa rémunération. Mais c'est sur le terrain. Et en quoi Juninho sait que Kadewere va être content? Parce qu'être content, d'après ce que j'ai cru comprendre entre les lignes dans sa déclaration, c'est être investi, c'est ça, non?
Oui, c'est ça, être professionnel, investi. Voilà, c'est ça, oui.
Mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien.
Non, mais à la limite, on lui souhaite. Kadewere, c'est un prétexte, on s'en fiche.
L'an passé, oui. Quels sont les recrues qui sont arrivées avec Juninho? Vous les avez cités. Il y a Thiago Mendes.
Oui.
Jean-Lucas.
Et Ren Adeleide, il est arrivé quand?
Avant. Un peu après la blessure de Payet.
Il est arrivé tout à la fin de l'été, mais avec Juninho.
Bon, il est arrivé avec Juninho.
Oui.
Et par exemple sur ces garçons-là, et notamment Ren Adeleide, qui a un vrai talent, qui est un bon footballeur. Tout le monde s'est plaint, et notamment les techniciens, que parfois il en faisait un petit peu à sa guise, et ainsi de suite. C'est bien Juninho qui les a recrutés. Il était directeur sportif à ce moment-là.
Oui.
Ils étaient contents de signer à Lyon. Il était très content, Ren Adeleide, de signer à Lyon. Thiago Mendes était très content de signer à Lyon.
Alors, où veux-tu en venir?
Mais je veux en venir qu'on verra si Kadewere est content, c'est-à-dire s'il apporte un véritable investissement sur le terrain et pas uniquement au moment de la signature. Et on verra s'il est capable de faire changer de mentalité.
Non, mais Kadewere, c'est un prétexte. Il voulait juste mettre un tir aux autres joueurs.
Moi, je pense que l'idée de Juninho, c'est que malheureusement, il a eu affaire à des joueurs qui ont montré un plaisir de signer à Lyon. Et là, il a vu un gamin. Et peut-être que lui aussi a adapté son discours, a changé son discours, a eu un discours peut-être un petit peu plus franc avec le joueur dans sa mentalité, dans son professionnalisme, dans son envie de réussir. Et je pense qu'il passe un message. Il a été surpris en disant...
Il passe un message, ça, c'est sûr.
En disant, voilà, je suis surpris, entre guillemets, du caractère du gamin qui investit, tout ça. Il passe un message. Et sûrement qu'il a été surpris de voir, quand il a fait signer peut-être les Mendes, les machins, les Silla, de se dire, ceux-là, ils sont arrivés une main devant, une main derrière. On est là, on est content d'être là, mais si on n'est pas là, mais c'est pas bien grave, on ira ailleurs.
Exactement.
Voilà.
C'est exactement ça, Christophe. C'est exactement ça. Avec autour d'eux des gens qui ont dit, écoute, c'est pas grave, si ça se passe pas bien à Lyon, j'ai déjà une touche pour que tu ailles à droite ou pour que tu ailles à gauche. Ouais. Évidemment que c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, les joueurs, quand une fois qu'ils ont fait une ou deux bonnes saisons, par la suite, on sent toujours un petit relâchement.
Mais c'est capital, Jean-Michel, c'est capital. On a été joueur, c'est quand même capital d'avoir un directeur sportif, un mec qui est du foot, qui est là, qui comprend tes problèmes, mais qui sait ce que tu vis. Aujourd'hui, en plus, c'est des gamins.
Est-ce que tu as besoin d'un directeur sportif pour essayer de faire de bons matchs?
Je pense qu'il y a certains aujourd'hui qui sont de plus en plus jeunes, qui gagnent de l'argent de plus en plus tôt, qui sont perdus. Oui, mais peut-être. Mais je pense qu'il y en a qui sont perdus bien plus tôt. Moi, j'ai connu, par exemple, à mon époque, que quand on a commencé à faire des bons matchs avec Zizou, des agents qui arrivaient de partout, on savait pas avec lequel fallait signer, on était un petit peu perdu, on était sollicité.
Ça, c'est autre chose, ça.
Oui, mais c'est tout un contexte pour te rassurer. Ta première chérie, ta première fiancée, tes premières sorties. Au bout d'un moment, quand t'as un mec du foot qui te parle, et pas seulement. Oui, mais au bout d'un moment, il y a des gamins peut-être aujourd'hui qui sont sollicités, qui sont peut-être un petit peu plus fragiles qu'on l'était nous, ou peut-être qu'on avait un peu plus de caractère, on avait un peu plus de mentalité. J'en sais rien comment.
Mais ça doit te faire oublier l'essentiel, et Christophe, c'est-à-dire.
Non, bien sûr que non.
Te donner au maximum et faire.
Bien sûr que non, mais il y en a qui ont peut-être tendance à oublier.
Le mieux possible chaque fois que tu es sur le terrain.
Enfin, non, en tout cas,
non, non. Bah,
ça confirme ce que je pense, c'est que Dugas aurait été un excellent directeur sportif. Mais bon, bref.
Mais en tout cas, pour revenir à ce que vient de dire Dugas, c'est que Juninho ne comprend pas comment lui, à son époque, il a pu évoluer avec des joueurs et qui étaient déjà des stars à l'époque pour lui. En tout cas, Chris, Cachapa, Coupé, qui avait une super bonne mentalité. Et lui, il ne comprend pas comment des petits jeunes aujourd'hui qui ont 20, 21 ans dans le vestiaire de l'OL.
Mais parce que ça fait partie du talent, Mohamed. Dans le talent, c'est un des paramètres, c'est un des critères essentiel que celui de bien se préparer, de bien se motiver, de faire les choses comme il faut avant et pendant les matchs. C'est essentiel, ça fait partie du talent.
Ça fait partie de toute
la... Mais c'est pas inné, c'est pas inné. Il y a certains pour qui il faut les accompagner.
Oui. Alors, Jérôme, je crois que tu voulais ajouter un mot.
Non, mais Mohamed, il vient de le résumer. Juninho comprend pas parce qu'à l'époque, en effet, tu viens de citer les joueurs là.
Chris
qui a tout gagné
et que quand t'avais un recrutement, t'avais des joueurs qui arrivaient parce que tous les ans, t'en avais un ou deux qui arrivaient et un ou deux qui partaient. Mais il y avait une base qui était solide. T'avais des repères en fait. Et les jeunes joueurs, en effet, ils peuvent pas tout savoir. Dire quand t'as 20, 21 ans, t'as beau avoir du talent, peut-être que des fois, et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et Dugas vient de le dire. Je pense que c'est encore plus dur pour les jeunes aujourd'hui parce qu'on leur donne beaucoup tout de suite sans avoir forcément prouvé, et ben t'as tendance à te perdre, ce qui a été le cas du recrutement de Lyon cette année. Et ces joueurs, ils mettent le nez à... je te prends l'exemple de Thiago Mendes, et pourtant c'est pas un jeune joueur, mais Thiago Mendes, quand tu le vois jouer aujourd'hui à Lyon et tu le voyais à Lille l'année dernière, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, le mec, il y a plus de sacrifice, il se bat plus, pas il mouille pas assez le maillot, parce que c'est des grandes phrases, mais c'est la vérité.
Comme bon directeur sportif va lui faire changer.
Je pense qu'un directeur sportif, en effet, l'accompagner, et surtout, il doit rendre service à ces joueurs-là en prenant dans le recrutement, parce que c'est son rôle aussi d'amener ça, ce changement de mentalité.
Oui.
Parce que
des deux côtés,
tout seul, Juninho, il peut pas y arriver, mais c'est aussi le rôle du staff technique, hein. Rudy Garcia, on peut pas le dédouaner de tout ça, oui. De cette mentalité. On peut pas dédouaner ce qui se passait sous Genesio aussi. Moi, j'étais le premier à le critiquer. Vous l'avez tous enflammé, Genesio. Mais il y avait des manques de ce côté-là. Il y avait des manques dans la mentalité. Pourquoi?
Alors, est-ce qu'on peut faire le débat Genesio, s'il vous plaît?
Non, mais là, je suis un peu moins d'accord. C'est vrai qu'il a un rôle, l'entraîneur. Je l'accorde. Mais je suis pas persuadé que l'entraîneur, il fait déjà suffisamment de choses, beaucoup de choses. Si en plus, il doit aller s'occuper de tout ce qui est, entre guillemets,
il devrait être délesté de ça.
Il devrait être au moins délesté de ça, à mon avis.
Charles nous rejoint, il est super
extra sportif. Du gars, tu peux pas parler extra sportif.
Quand il parle de la première fois,
là, on parle de terrain. Mais non. On parle de terrain au quotidien, à l'entraînement, l'exigence et tout ça. Bien sûr que c'est un rôle.
Il y a 30 mecs à gérer. Il y a ceux qui jouent. Il y a ceux qui jouent pas. Il y a ceux qui sont blessés. L'entraîneur, il peut pas non plus tout faire. Il est là pour le terrain. Avoir un directeur sportif qui l'aide. Qui c'est aussi un autre discours.
Tu peux pas totalement l'exonérer, Christophe, dans la mesure où j'aimerais savoir, puisque on parlait de
Charles, on arrive après.
Charles, oui. On arrive, Charles. Oui. Thiago Mendes, j'aimerais savoir combien de matchs Thiago Mendes a été titularisé.
Et ben on va regarder. En même temps, on accueille Charles. Salut Charles, bienvenue dans Team Giga.
Salut Charles. Salut Charles. Salut Poulet, bienvenue.
Ouais, merci.
Allez, éclaircis-nous ce débat là. Allez, vas-y.
Hein?
Éclaircis-nous ce débat, vas-y.
Non, moi en fait, dans tout ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec toi, Christophe, sur certains points et sur certains avec Jean-Michel aussi. Il y a un point où je suis vraiment en désaccord avec Mohamed Bouafsi qui dit Juninho a fait venir Guimarães, qui est un patron de vestiaire. Il a fait 5 matchs, Guimarães, c'est un patron sur le terrain.
C'est pas ça que je dis, c'est dans le futur, c'est dans la mentalité. Si je dis dans le futur, bien évidemment, on est conscient qu'il a fait que 5 matchs. Dans l'avenir, il a du caractère pour devenir un patron. C'est juste ça qu'on disait.
Ouais, ok. Bon, alors j'avais mal compris, autant pour moi. Maintenant, là où Jean-Michel, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à l'époque, quand on parlait de Coupé, de Chris, de Cachapa, il y avait des meneurs d'hommes, il y avait des guerriers sur le terrain. Et d'ailleurs, on voyait les résultats. Bon, on a pris 7 titres de suite. Et aujourd'hui, les mentalités, elles changent. Moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, dans l'effectif de Lyon, dans le groupe des 16 ou des 18 joueurs qui sont sur les feuilles de match, dites-moi un seul joueur qui aurait été titulaire à l'époque Douillet en 2004, en 2005, en 2006. Donnez-moi-en un seul. Hormis Lopez, peut-être, et encore, je ne sais
et
pas.
Encore, oui. Ouais, voilà. Non, il n'y en aurait pas. Moi, je pense qu'il n'y en aurait pas.
On est d'accord, je ne me trompe pas.
Pas savoir, ça.
De Paille, non, du gars.
Pas savoir, mais
c'est difficile de faire une comparaison.
Tu prends poste par poste. On est aujourd'hui, il y en a les 3 ou 4 qui seraient à la limite sur le banc. Donc, ouais. Déjà, il y a un problème de talent. Déjà, pour répondre à ce que Jean-Michel disait, pour moi, il y a un problème de talent. Maintenant, il y a un deuxième problème aujourd'hui. Je pense que, et c'est un phénomène de société aussi actuel, les réseaux sociaux font beaucoup de mal à des joueurs. Les agents font peut-être plus de mal qu'autre chose à des joueurs. Et il y a un gros problème pour moi aujourd'hui. C'est que certains joueurs, on le voit, gagnent plus d'argent à faire des photos, à mettre sur Instagram, à mettre sur Facebook et à se prendre en photo avec un mojito en terrasse qu'à sur le terrain et à mouiller le maillot. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de là. Maintenant, pour répondre à la question d'origine, je pense honnêtement que Juninho, avec la mentalité qu'il a, avec le charisme qu'il a, je pense que oui,
en effet, il va changer les choses.
Il va changer les choses. Okay. Je vais poser une question à Jérôme. T'as joué contre lui ou pas?
Bien sûr.
Oui, bien, plein de fois, oui.
Voilà. Moi, je l'ai vu. Moi, je fais partie de ceux qui étaient en tribune et qui l'ont admiré. Je trouve que ce mec avait été bourré de talent, mais tu vas mieux savoir que moi. Mais sur le terrain, je trouve que c'était une PUT, entre guillemets, tu vois. Je le trouvais vraiment hargneux.
Il y avait un peu de vice, on va le dire comme ça.
Il y avait du vice, il y avait un peu de peut-être des fois un peu de méchanceté. Il a quand même pris beaucoup de cartons rouges aussi. Ah, je trouve, en tout cas.
Et Jérôme, tu as ce souvenir-là?
Non, bon, moi, après, c'est pas à travers ses gestes sur le terrain, plus par la parole, oui, en effet, mais tu sentais que il aimait pas perdre, c'était un hargneux, il poussait les autres, ça c'est sûr que c'était un vrai leader aussi, un leader technique, mais surtout
un leader. Un chat, excuse-moi l'expression, alors ça va faire bondir, je m'en fiche, ça sera pas la première fois, mais il faut un peu plus de cons sur le terrain, un peu plus de connards, quoi. Au bout d'un moment, non mais il en manque aussi de ça, et à notre époque, il y en avait plein, au bout d'un moment, ça se joue aussi dans la parole, il y avait des matchs qui se gagner dans la parole, il y avait dans l'intimidation, il y avait dans le regard, il y avait des matchs, il faut retrouver un peu de ça aujourd'hui c'est plus possible d'avoir le football d'avant avec des tacles qui étaient parfois assassins où l'arbitre voyait rien, ou ça c'est plus possible, mais tant mieux pour le football.
C'est à la marge ça, Christophe.
Mais il y a un caractère, il y a quelque chose à redonner, il faut le joueur, le talent, les joueurs talentueux, de toute façon on les aura plus parce qu'on n'a pas les moyens de les avoir, les joueurs talentueux, au bout d'un mois il faut retrouver des joueurs qui en ont dans le pantalon.
Quel gars tu as, du gars, mais pourquoi t'arrêtes là, c'est incroyable, t'as placé plein de convictions. Tu devrais peut-être toi aussi aller à la Fédé.
Bon Jean-Louis, je t'aurais pris sous mon aile, t'aurais fait une carrière de fou, je te le dis de suite.
De quoi? De joueur?
Ben oui.
Qu'est-ce que tu racontes? Il est fou lui.
Il t'en manquait quelle mentalité?
Oh, il me manquait plein de trucs. Effectivement, Juninho, pour être précis, il a pris 5 cartons rouges dans toute sa carrière. Donc voilà pour Charles. L'info et Captain, tu demandais le nombre de matchs de Thiago Mendes. C'est ça, 33 matchs avec Lyon, toutes compétitions confondues.
Donc voilà. Qui a été nul et il a été souvent titularisé.
Il a beaucoup joué, effectivement. Merci Charles d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC dans Team Duga. À bientôt. On remercie Mohamed Bouafsi également.
Merci, bonne soirée.
Voilà donc pour ce débat autour de Juninho. On revient dans un instant avec Adrien Aigouin et son fameux journal moyen.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Un débat original après 19h, ne ratez pas ça. Thierry Roland, était-ce le meilleur au commentaire? Chacun va donner sa sensibilité. Est-ce qu'il attend d'un commentateur lors d'un match de foot? C'était passionnant cette semaine dans Team Duga. Et puis vous aurez droit également à la proposition de coach Courbis pour reprendre au mieux la saison prochaine en Ligue 1. Tout de suite, c'est le journal moyen.
À la une du journal moyen de Team Duga aujourd'hui sur RMC. Petit problème technique dans l'after pour Lionel Charbonnier au tout début d'émission. Ça arrive parfois, tout n'est pas en place. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui va très très bien dans la vie, il y a des gens qui vont bien, lui il va très très bien. Et puis Tim Duga va analyser la com de deux joueurs de foot de Ligue 1, deux communications différentes. Vous êtes des spécialistes de la com et du foot, Duga. On va profiter de votre expertise. Duga, ouais. Alors j'ai réécouté effectivement au début de l'émission Franck Leboeuf, c'est ce qu'on appelle être véritablement sur un fil. Effectivement,
c'est vrai qu'à Neymar en pleine forme, il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde, enfin des trois joueurs que tu viens voir.
Ah, elle est pas mal quand même.
Ouais, on est sur un fil,
oui,
on perd l'équilibre, mais on tombe pas du fil.
J'ai fait mieux.
C'est marrant comment c'est plus fort comme ça, isolé.
C'est toujours plus fort isolé.
Ouais.
C'est le 333e journal moyen de l'histoire de Team Duga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aigouin.
Et on
débute avec un point after, s'il vous plaît.
Vas-y, je te laisse, c'est fini.
Non, mais attends, tu veux que je te dise, là, pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole.
Non. Enfin, c'est un peu l'histoire de l'after. After de vendredi, 22h05. Un début d'after un peu compliqué pour Lionel Charbonnier. Willy Sagnol termine son propos sur les finales de Coupe, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et Lionel se gratte la tête. Et il y a un problème, ça ne lui va pas du tout.
Je pense pas qu'il y ait des données économiques derrière. Je pense que c'est plus d'une donnée philosophique.
Bah, la Coupe de France, ouais. Willy, c'est quand même plus, plus la Fédé. Coupe de la Ligue, c'est plus la Coupe de la Ligue.
C'est ce qu'on a dit, oui.
Non, la Coupe de la Ligue, c'est, pour moi, c'est plus la Coupe de la Ligue que la enfin, c'est pas la Coupe de France, voilà, ça n'a rien à voir pour la Fédé.
On comprend rien, là.
Là, il est passé à niveau.
Pardon, mais Nico Villas fait une grosse erreur.
Oui.
D'intervenir à la fin.
Nico Villas, on appelle ça un bon compagnon.
Jean-Luc Tour, on appelle ça un chien.
Nico, prends exemple sur nous. Quand Frag se noie tout à l'heure, on le laisse se noyer.
Silence complet.
Bien sûr.
À cause de Nico qui intervient, Nico Villas, la suite est beaucoup plus claire.
La Coupe de la Ligue, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est pour la Ligue. C'est pas pour la Fédé.
Mais c'est ce qu'on a dit.
C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.
Ah, j'ai compris. Parce que j'avais compris que tu disais que comme la Coupe de la Ligue, la Fédé.
Non, ce que disait Willy, c'est il défend aussi le fait que la Coupe de la Ligue se maintienne.
N'interviens plus, Nico. C'est la dernière fois que tu interviens.
La différence avec moi, c'est que je trouve que Lionel est têtu.
Oui.
Quand il repart et tout, c'est génial.
Bon, voilà. On est quand même loin de la Ligue des Champions. On est loin de Chelsea. On est loin des Blues. On est loin de Franck Leboeuf, quand même.
Vu le fait que les joueurs soient ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, trois joueurs importants sont partis.
C'est extraordinaire. Plus je l'écoute, plus je l'aime. Oh, c'est extraordinaire.
Ouais, tu le sais sur les cinq premiers mots qu'il ne sait pas du tout où il va. Oui, j'ai fait 7 ans à RMC, il restera que ça.
Non, aujourd'hui. J'ai Adil Ramzi aussi, mais bon, plus tard.
Ah oui.
Pour bien suivre à Valence ce qu'il a dit, Adil Ramzi. Sans transition, la phrase du week-end nous vient des Pays-Bas. Alors là, vous allez analyser cette phrase. L'ancien joueur Wesley Sneijder a répondu à une interview de Gianluca Di Marzio, journaliste très connu de Sky Sport en Italie. Vous aurez noté l'accent. Alors, je vois le titre de l'interview, parce que ça m'a quand même attiré l'œil. Il déclare « J'aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo », nous dit Sneijder. Il dit « J'aurais pu devenir, précise-t-il, comme Messi ou Ronaldo, j'en avais tout simplement pas envie ».
Non, mais ce qu'il aurait pu être comme Messi ou Ronaldo, il a fini comme Jeannot. C'est marrant, ça, quand même. Ouais, c'est énorme, ça.
Non, mais alors écoutez la suite. Il explique quand même, parce que le garçon n'est pas bête, il est intelligent. Il dit J'ai apprécié ma vie. Je prenais parfois un verre de vin au dîner. Donc, ça, je traduis en tant que spécialiste, ça veut dire plutôt 10. Léo et Cristiano sont différents. Ils ont fait de nombreux sacrifices. Ça ne me dérange pas. Ma carrière a néanmoins été incroyable. Mais s'il n'avait pas bu un verre de vin le soir, il aurait été comme Messi ou Cristiano.
Ça suffit. Non,
c'est pas scientifique, ça, quand même.
Non, mais c'est pas que le verre de vin. Il t'explique qu'il n'était pas assez sérieux pour que par rapport aux autres. Voilà, maintenant c'est un joueur énorme. Je t'en ai dit, on ne les connaît pas quand même.
Quand il était à l'Inter, il était extraordinaire.
Il aurait pu avoir le ballon d'or.
Après, j'aurais pu être Messi ou Ronaldo. Ouais. Non, mais ce qu'il veut dire.
C'est
ce qu'il
bien un néerlandais qui se la raconte, ça.
Après. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il avait. Il était très fort et qu'il avait potentiel à être encore plus fort, qu'il a peut-être caché.
Ça d'accord. Mais rappelle-toi, c'est quand même très haut.
Tu dois pas le dire.
Tu dois le dire. Mais si Sneijder, il ne peut pas le dire, qui peut le dire alors, les amis?
On parle plus
là. On parle plus à la radio alors les gars, si je n'ai rien à peut pas dire ça.
Mais toi t'as jamais dit Eric que tu voulais être, je sais pas.
Et ben justement, vous voulez t'en parler Eric, faut peut-être parler.
Ouais, il faudrait que tu arrêtes la radio justement. Hazard, il a fait une interview il y a pas longtemps où il t'explique que lui il s'en fout de les titres honorifiques comme ça ou les machets ou trucs, il s'en fout.
Ouais, mais il dit pas qu'il aurait été aussi bon que Ronaldo et Messi.
Non,
c'est ça le problème,
parce qu'il dit qu'il est encore en activité, que peut-être un jour il sera aussi fort que.
Non, tu demanderas quand il arrivera. Tu dis pas.
Eden, bonjour. Sans transition, c'est l'instant Cristiano.
Pardon, Chris!
Oui!
Et qui ose critiquer Cristiano?
Pardon, je t'ai critiqué!
Arrêtez de le critiquer!
Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde!
Oui!
Donc, les deux se parlent là ou quoi? La réalité. Jérôme, il parle à.
Non, c'était un débat en fait en direct à la radio.
C'est un débat en direct.
Cristiano Ronaldo, le Portugais, a encore battu un record. Ah bah, du coup, là, sans jouer. Il a battu le record la semaine dernière. Je vous ai parlé du classement du magazine Forbes, le top 100 des sportifs qui ont gagné le plus d'argent dans l'année. Oui. Donc, déjà, il était bien classé. Il était deuxième, monsieur Cristiano.
Bravo.
Tout à fait. Et du coup, il a quand même battu un record. Il devient le premier joueur de foot à atteindre le milliard de gains en carrière. $1 milliard. C'est très symbolique puisque c'est le premier joueur de foot de l'histoire.
Il y avait Tiger Woods qui l'a fait.
Alors justement, il y a trois autres sportifs qui ont un jour dans leur vie atteint le milliard de gains.
Il y a un boxeur, il y a un boxeur.
Il y a Tiger Woods, Federer et Michael Jordan.
Et non, Federer, bizarrement, n'a toujours pas atteint un milliard. Il devrait les atteindre en
2021. Mayweather.
Tiger Woods, Michael Jordan et Floyd Mayweather, le boxeur. Bien joué, du gars. Tu vois, dès qu'on parle de.
On était là.
On espère. Suspense, Federer, j'espère pour lui, va réussir
Beckham,
à rejoindre.
Mais il est pas arrivé au milliard, Beckham.
Non.
Et là, t'as aucun membre de la Dream Team là-dedans.
Ben, a priori, non. On parle en dollars, un milliard de dollars, je sais pas.
Ah, 200 dollars, je pense.
On a raté d'un million ou deux.
Après, si Eric fait 10 ans de plus à RMC, on sera pas. Après, est-ce qu'on parle de l'argent au black que les mecs? Parce que.
Aujourd'hui ça se fait moins, mais peut-être qu'à l'époque ça se faisait plus.
Eric,
il pas de Vincent. Il y en a, ils sont allés jouer dans des pays exotiques.
Oui, Dugas.
C'est pas beau de parler de Vincent
Des anciens Marseillais qui ont fini à Monaco leur carrière, par exemple.
Aussi.
Avec un nom italien, ça peut s'arranger.
Tu crois que je parlerais avec toi tous les jours si j'avais gagné un milliard au foot, moi? Non, mais dis-moi la vérité. Non, mais ça me déconne.
Par passion. Par amitié du sport, de la radio.
C'est pas faux.
Ah oui?
C'est pas faux.
Il faut bien que tu t'occupes si tu gagnes un milliard.
C'est vrai que tu t'emmerdes, tu as raison, je serais peut-être avec toi.
Tu n'aurais pas connu Kikadi, Eric.
Tu as raison, je serais présent aussi des gros Kikadi.
Qu'aurait été ta vie sans le Kikadi?
Tu passerais pas pour un mec sympa, en fait.
Ah là, il passe pour un mec sympa.
Et, bah oui.
Ça dépend des joueurs.
Il est sympa.
Non, mais parce que quand tu étais joueur de foot, tu passais pas pour un mec sympa, Eric Dimeco.
Non,
là, tout le monde pense que Eric Dimeco est un mec sympa.
Oui. Bien sûr, mais Dugas le dit tous les jours.
Bon, il dit que c'est un con, mais il dit un mec sympa.
Voilà donc pour le journal moyen d'Adrien Aigouin. Rendez-vous lundi en direct à 18h45 pour le retrouver. On revient après les infos de 19h avec notre débat autour de Thierry Roland. Était-ce le meilleur dans son rôle? À tout de suite.
RMC 18h20h, le meilleur de Tim Dugas. RMC 18h20h, le meilleur de Tim Dugas.
On vous replonge dans l'heure qui vient, dans l'émission de jeudi, dans Team Dugas. On s'est interrogé sur la carrière d'un commentateur. Thierry Roland, était-ce le meilleur commentateur à la télé? Lui qui a marqué les exploits du foot français de sa voix et de son style particulier. Son duo avec Captain Larquet a fait merveille pendant des années et des années à la télévision. On a donc débattu autour de Thierry Roland avec Captain Larquet, Gilbert Bribois, Christophe Dugarry, Julien Cazard et Coach Courbis, qui avant de parler de Thierry Roland avait une proposition à faire pour la reprise du foot français en Ligue 1. Coach Courbis a une idée pour la reprise de la saison prochaine de Ligue 1. Et on espère, je fais l'appel depuis 18h, coach, mais j'espère que Didier Quillot et que la Ligue nous écoutent.
Écoute, dans tous les cas, s'ils ne nous écoutent pas, tant pis pour eux. Donc, en ce qui concerne ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement parce que j'ai écouté ce que disait Dugas en début d'émission. C'est vrai qu'il n'y a pas que le football qui compte. Je suis passionné. J'ai une carrière maintenant qui n'est pas encore terminée puisque je suis consultant et j'essaie d'être utile au football qui a été quand même 80%, pour ne pas dire 99% de ma vie. Et je suis un peu chauvin pour le football français. Donc quand je critique aussi en essayant de trouver une solution. Je critique pas pour critiquer. Là, par exemple, bon, on va pas revenir sur la mauvaise initiative qu'on a pu prendre ou qu'on a pu faire prendre à notre Premier ministre le 28 avril. Moi, je suis taquin. J'ai taquiné. J'ai dit, bon, allez, après le poisson d'avril, le premier, il y aura les dindons d'avril le 28 avril. Mais maintenant, je crains le pire. Je crains que pour réparer une connerie, et des conneries tout le monde en fait, qu'on n'en fasse pas une plus grosse. C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'on était passé au Conseil d'État. Conseil d'État, le terme le dit, conseil, ce sont des gens qui sont à la plus haute juridiction de notre pays et qui conseillent. Ils ont conseillé qu'on revoie un petit peu les choses en ce qui concerne le format. Mais ma vision à moi, c'est la suivante. C'est que
nous reprenons le 20 août. Mais c'est quoi cette invention? Nous avons fait déjà la connerie de ne pas attendre pour prendre des décisions. Et maintenant, on va reprendre à une date plus repoussée que ce que nous avions l'habitude de faire, alors que là, nous n'avons même pas terminé notre championnat. On ne peut pas réfléchir pour être premier de ces cinq pays en se disant, tiens, maintenant... On reprenait avant, aux alentours du 20 juin et tout, et puis le championnat...
Le championnat vers le 5 août.
Non, l'entraînement.
L'entraînement. Ah, l'entraînement début juillet.
L'entraînement, fin juin, on faisait donc ce qui se passe maintenant. Ouais. Et donc c'était début août, comme tu viens de le dire. Maintenant, on reprend évidemment aux alentours du 20 juin pour 2 mois d'entraînement. Mais le pourquoi on profite pas de notre connerie pour pas en faire une autre et la réparer en disant qu'on va démarrer tout simplement aux alentours du 17, 18, 20 juillet.
Voilà, tu veux qu'on reprenne beaucoup plus tôt.
Laisse-moi finir s'il te plaît. Pour pouvoir avoir un calendrier bien équilibré et ne pas maintenant profiter de cette situation pour répondre au Conseil d'État, en se grattant la tête, on a réfléchi pendant 48 heures, dont le Conseil d'État, vous nous avez dit qu'il va falloir quand même bien réfléchir. On a bien réfléchi pendant 48 heures, mais faute de calendrier, on ne peut pas jouer à 22. Mais pourquoi on ne peut pas jouer à 22? Si on démarre le 20 juillet, on assassine personne en leur mettant un coup de couteau dans le dos, parce que pour moi, la descente d'Amiens, pour moi, c'est un coup de couteau dans le dos. Donc n'essayons pas quand même de tourner le couteau dans la plaie. Quand Amiens est très content d'être sauvé, Toulouse, eux, ils étaient bien derniers, tant mieux pour eux s'ils sont sauvés, essayons un petit peu d'être solidaires.
Donc, Ligue 1, je pense, à 22 et on commence en juillet.
Oui, le calendrier n'est pas perturbé pour autant, puisqu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Ouais. Et donc, on gagne pratiquement un mois, et ensuite, par solidarité, on peut très bien, pendant un an, jouer à 22. Je ne vois plutôt que des avantages. Lyon et le Paris Saint-Germain ne seront pas handicapés vis-à-vis des autres équipes par manque de rythme, parce que je suis en train de regarder le Bayern.
C'est vrai que c'est un avantage pour le Bayern.
Ensuite, nos clubs seront favorisés dans les tours préliminaires parce qu'ils auront repris en étant frais et non pas en s'étant fatigué, en jouant tous les 3 jours, comme ça va se faire par exemple en Espagne.
On en est à 5 minutes ça, là, donc je pense qu'on a compris le point de vue.
Oui, alors moi, juste avant de partir en week-end, je voudrais juste dire un truc.
Dernier truc, je te promets, c'est le dernier. J'espère qu'on ne va pas prendre le Conseil d'État pour des cons, qu'ils ne sont pas, et qu'on va leur dire, faute de calendrier, on ne peut pas jouer à 22, alors que c'est ce qu'ils nous demandent. Je vais pas attaquer une carrière de balance à mon âge, mais je leur explique au Conseil d'État qu'en redémarrant le 17 ou le 18 juillet, notre football français peut que mieux se porter.
Ok, alors Julien, tu voulais rajouter un truc.
Déjà, Roland vérifie que c'est bien en août 2020 et pas 2021 qu'ils ont prévu, parce que moi je me méfie. Mais surtout, je veux dire que tu te rends compte que déjà que Neymar, ça le fait chier de jouer contre 19 équipes de Ligue 1, tu veux lui en rajouter 2 de plus, c'est déjà long la Ligue 1. C'est très long.
Alors,
c'est
interminable. Du gars.
Comment ça, on s'en fout de Neymar? Non, mais attends, t'es sérieux quoi? Oh gros, il me manque que de respect, oh! Il me manque que de respect, gros!
Du gars, il a raison, coach?
Bah oui, non, mais expliqué comme ça, c'est clair, net, précis. Oui, on peut que défendre cette idée, mais une nouvelle fois, voilà, Roland.
Mais attends,
mais elle est excellente idée.
Tu penses sincèrement qu'on va avoir le culot?
De répondre au
Conseil d'État qu'on ne peut pas jouer à 22 pendant un an parce que c'est faute de temps et de calendrier, alors que je te donne une solution, que ton calendrier il sera plus allégé, ton mercato il sera plus tranquille et tu seras moins handicapé.
Même pour l'Euro l'année prochaine, l'Euro tu prépares ton Euro tranquillement.
J'allais te le rajouter, bravo, merci.
Bon, très bien, Captain, d'accord aussi.
Excusez-moi,
oui, Julien.
Avant que Captain parle, vu que la répartition des matchs c'est sur 20 équipes, les deux équipes en plus elles jouent sur quelle chaîne?
Ah ben ça, mais il peut y avoir un avenant pour Media Pro, ils seront très contents d'avoir les
droits. Mais non, mais parce que moi je veux bien les acheter les droits, si peut-être qu'ils sont pas, ils sont libres.
Oui, c'est possible.
Ils sont libres.
Attends, mais Media Pro, Media Pro, Media Pro avait même fait.
Mais puisque Media Pro avait même.
Non, mais pas tous en même temps.
Puisque vous êtes sur les indemnités des télévisés, avant même qu'il y ait tout ce bazar, il y avait, outre la proposition que je trouve remarquable de Roland, pour moi, elle est frappée du bon sens, mais ça, il fallait le faire.
Il y a peut-être un problème.
Ah, non ? Lequel ?
Alors, c'est Patrice qui nous dit ça sur Twitter. Pensez-vous que le diffuseur sera vraiment prêt le 20 juillet ? Alors qu'ils sont en train de monter leur chaîne, de monter leur rédaction, etc.
Attends, le 20 juillet, c'est pas le 20 juin, ça fait plus d'un mois le 20 juillet. Oui, et n'oublions pas que ce diffuseur avait même fait la proposition de rentrer pour la fin du championnat si on reprenait.
Juste
une chose. Il y a quatre équipes qui... dont le destin était incertain. Les deux qui descendent et les deux qui montent.
Oui.
D'accord. Si au départ, tu dis aux quatre équipes, vous, Toulouse et Amiens, vous n'allez pas descendre, mais on va vous sanctionner financièrement. Je vais expliquer pourquoi. Et vous, Lorient et Lens, vous n'étiez pas sûr de monter, donc on va vous récompenser, mais pas totalement. C'est-à-dire que les indemnités... Et j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu les calculs. Les indemnités des deux équipes qui sont dernières, au lieu de les diviser par deux, tu les divises par quatre.
Oui.
Ce qui aurait fait un peu moins pour ou beaucoup moins pour Toulouse et Amiens, mais ils seraient restés en Ligue 1, et beaucoup plus pour Lens et Lorient, qui auraient à coup sûr accédé en Ligue 1. Et je pense que si tu leur dis ça avant tout le méli-mélo qu'il y a eu, je pense qu'ils auraient donné leur accord.
Messieurs Kyo,
je pense aussi.
Oui. Messieurs Kyo, Le Gret, Madame Bois de la Tour, prenez Captain Larquet, coach Courbis dans vos instances et vous verrez, tout ira bien mieux.
La commission des calendriers.
Et en plus, comme ça, on s'en débarrasse. Nous. Alors, ça fait une paire de coups. Ouais,
c'est surtout ça qui est intéressant. Et moi, j'ai plus à m'emmerder à vous expliquer des choses là que je repousse le débat sur Thierry Roland avec mes solutions.
Évidemment, 32-16, si vous n'êtes pas d'accord avec Roland, si vous avez des arguments contre cette proposition, on vous donnera quand même la parole et puis vous pouvez réagir. Sur Twitter, on a lancé un sondage sur le compte de Team Duga pour ou contre la proposition de coach de démarrer en juillet.
Sincèrement, pour être contre cette proposition, sans prétention, mais tant pis si c'est un peu prétentieux, il va falloir bien argumenter. Hein.
Exactement. Allez, on y va tout de suite.
Président.
Donc, on va revenir en détail sur la voix qui a marqué le football français.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud.
Non, attends. En plus, il se fout de ma gueule.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football.
Non, mais d'accord, bon. Mais qu'il ne raconte pas des conneries.
Et but ! Troisième but d'Emmanuel Petit.
Il est là, alors il y a deux lits, hein.
Oui, c'est un grand appartement.
Ce que vous croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde.
Celui-là, il est magistral.
Tu t'occupes de tes fesses, t'es gentil.
De quoi ? Allez, mon petit bonhomme ! Oui !
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Voilà donc un résumé de ce qu'a pu être Thierry Roland aux commentaires donc des plus grands matchs de l'équipe de France, des clubs français en Coupe d'Europe également, ses excès aussi qui ont rythmé donc ses passages à la télé. Alors le duo mythique, c'est avec Captain Larquet qui est avec nous en direct. Alors d'habitude on fait des carrières de joueurs, d'entraîneurs marquants, et on s'est dit quand même que comme cette voix de Thierry Roland a accompagné de nombreux exploits du foot français et a marqué beaucoup de gens, et parce que on a un avis tous sur la façon de commenter le foot, et bien on voulait en profiter pour faire le débat. Thierry Roland était-il le meilleur commentateur? Alors il a commenté sa première Coupe du Monde, c'est 1962 qu'il fait au Chili, et ensuite donc il a commenté l'équipe de France. Avec toi Captain, c'est quoi, à partir de 80
80 2006
Après, même début, 2011, vous faites un France-Roumanie.
Non, mais.
Un comeback incroyable.
Non, mais ça,
c'était Tyson.
C'était Carbo déjà, il était Carbo.
C'était Tyson Olympique.
On était plus dur, là, le
Mais effectivement, donc, vous en avez commenté énormément. Alors.
1500 ou entre 1500 et 1800 matchs.
Ah oui, voilà. Alors, bon, on a tous des souvenirs de matchs qu'on a pu regarder en vous entendant commenter. Je sais pas par où commencer. On peut commencer non, par le style déjà, par définir ça. Oui, Duga.
Ouais, mais après déjà de la manière dont tu tournes la question déjà. Voilà. Pour moi, c'est un duo de commentateurs et en plus j'ai eu la chance de le faire pendant 10 ans. Sincèrement, Thierry Roland, excellent, sa voix, les expressions, on s'en souvient tous, fantastique. Monsieur, son rire, sa passion du foot. Mais Jean-Michel était rien sans Thierry Roland et vice versa. Et Thierry Roland était rien sans Jean-Michel. Enfin, pour moi, ça fonctionnait. À deux, tout seul.
Très complémentaire.
Dire tout seul que Thierry Roland était le meilleur commentateur, sincèrement, ou alors je peux te renvoyer et Thierry Gilardi aussi.
Oui.
Donc, tu sais, c'est
alors, en plus,
pour l'avoir fait pendant 10 ans, c'est vraiment un ah oui,
alors, tout seul, tu disais rien, que quoi. Pour toi, c'était pas un commentateur, c'était un journaliste.
Non mais parce que après moi de la manière dont je regardais le football déjà très tôt parce que c'était ma passion. Moi j'écoutais plus ce que disait Jean-Michel que ouais. Thierry parce que moi ce qui m'intéressait c'était les analyses du foot, c'était parler football ce que Thierry faisait quand même beaucoup moins, il était là pour entre guillemets pour mettre l'ambiance, il y avait cette intonation, j'écoutais beaucoup, j'étais beaucoup moins sensible à ce genre de à ces commentaires là plutôt qu'aux techniciens, aux sportifs, aux footballeurs qui allaient me donner des recettes, tu vois, pour améliorer mon jeu, pour donc déjà j'écoutais beaucoup moins Thierry Roland que Captain Larkin.
Oui, parce voilà. Que Captain, il faut bien expliquer qu'à l'époque, les rôles sont clairement définis. Enfin, c'est la frontière entre journaliste et consultant, avec le temps, je trouve, elle a diminué. La différence est moins marquée. Le journaliste donne beaucoup son avis et se prend pour un spécialiste parfois qui n'est pas comme l'ancien joueur.
Je suis d'accord dans ce sens et je suis d'accord dans l'autre, tu as raison.
Oui, parce que dans l'autre, c'est l'ancien joueur qui n'a pas non plus parfois des analyses techniques qui font la différence.
La frontière a explosé, ça c'est une certitude. Mais d'abord, comparer les époques, c'est impossible. Et puis, je vais le dire honnêtement, je ne sais pas si on a été les moins bons, les meilleurs, ou si on était au milieu, dans le ventre mou du classement. Moi, je m'en fous de ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on a été servi par l'actualité et par les performances et de l'équipe de France et des clubs. On a eu un cul incroyable. Mais c'est ce qui fait toute la différence. On a commencé en 82. 82, c'est...
En même temps, sur 40 ans, il y a forcément un moment... Enfin, sur 30 ans, il y a forcément un moment où c'est en haut
ou
en
bas. Oui, sauf qu'avant ces 30 ans, ou avant ces 25 ans,
ah oui.
Il y en avait eu 70 où tu n'avais rien eu, quoi. Mais que dalle. Que
ouais,
dalle.
Ouais, c'est vrai.
Bon, et 82, c'est la Coupe du Monde en Espagne. Tout le monde se rappelle aujourd'hui de France-Allemagne. Oui, il y a des matchs comme ça qui rappellent et qui sonnent véritablement et qui rappellent une époque. 84, on y est, le premier titre. Finalement, 86, on est troisième à Mexico. Au Mexique, pardon. Vous vous rendez compte ? 82, ouais. 84, 86.
Gilbert, est-ce que c'était ton modèle ?
Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et moi, je pense que c'était le meilleur. Je vais vous expliquer, enfin, c'est mon point de vue. Hein. Parce qu'en fait, je rejoins assez ce que disait Julien, c'est-à-dire qu'il avait ce truc, c'était l'incarnation du fan de foot en mode un peu parisien, parce que c'était un vrai parisien, Thierry Roland.
Il est né rue Washington.
À la fois.
Il est pas né à Boulogne-Billancourt.
À la fois.
Moi, je crois qu'il est rue Washington. Allez, vous les vivez rue Washington.
À la fois totalement irritant parfois et insupportable, mais en même temps attachant et passionné par ce qu'il faisait, quoi. Et alors. Bon, le duo fonctionnait très bien. Je suis même pas sûr d'ailleurs que Thierry Roland, Jean-Michel, je sais pas si tu vas me contredire, je suis pas sûr qu'il était vraiment un spécialiste de jeu et de tactique. Il en parlait jamais d'ailleurs.
Ah, il s'en foutait complètement.
S'en foutait.
Ah, c'était le cadet de ses soucis.
Il était amoureux des joueurs. Il était amoureux des joueurs.
Mais enfin, moi, ça, il est là le truc. Problème.
Je suis assez d'accord avec toi. Mais justement, je vais y venir. Parce que moi, ce qui me gêne aujourd'hui, Thierry, bon, alors, c'est aussi une question de génération. Nous, on a grandi avec Thierry et Jean-Michel. Donc, forcément, oui. Dès que tu revois des matchs, tu repenses la voix, les trucs. Donc, forcément, des gens plus jeunes qui n'ont pas connu.
L'opposition que tu peux faire, c'est l'école Canal.
Voilà, j'y arrive.
Bah, vas-y.
Parce qu'en fait, il y a un truc, il faut mettre en rapport ce que faisaient Jean-Michel et Thierry Roland avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, aujourd'hui, je suis assez confraternel, donc je ne vais pas citer de nom. Mais en fait,
ils se reconnaîtront.
Mais en fait, je m'emmerde. C'est-à-dire que Canal a lissé toute une génération de mecs qui commente le foot, consultant comme comme commentateur, à quelques exceptions près.
Oui, voilà, il y a quand même des exceptions.
Bah, Dugas en est une.
Non, parce, mais Thierry Gilardi sortait de Canal.
Non, mais ils ont. Alors, en fait, je pense que c'est Bietri qui a l'origine de tout ça.
Sortait
de
Thierry Gilardi sortait de France Inter, de Radio France.
Ouais. Bah, il était à Canal, on avait TF1. Excusez-moi.
Oui, il a fait Radio France, Canal. Et, voilà. Et je pense qu'en fait, c'est Charles Bietri qui est à l'origine de tout ça, qui en fait a voulu finalement faire de cet exercice, qui était un exercice de passion, comme le faisait Thierry Roland, il a voulu en faire un métier, en fait. En codifiant, en disant, là maintenant vous allez faire comme ça, vous allez préparer des punchlines quand il y a un but, vous allez
pas
faire des fiches.
Les punchlines,
vous
allez... Voilà, c'est plutôt de travailler, un vrai travail de journaliste. Que le commentateur soit journaliste avant tout, et pas seulement accompagnateur de l'événement.
En fait, tu veux quoi quand tu regardes un match? Mais tu veux de l'émotion. T'en as rien à secouer des 50 000 stats à la con qui nous servent à rien. Non mais je veux dire, excusez-moi. Non,
ça c'est une question de goût. Là, moi je partage pas du tout ton avis.
Alors, l'émotion. Rendez-nous un gars avec du caractère. Rendez-nous Thierry Roland de l'opinion, de la passion, quoi. Qu'on s'éclate.
Quand j'écoute les.
Non mais alors attends, je suis comme toi. Attends, je voulais te couper. Je suis désolé, mais parce qu'on va revenir dans un instant. Gilbert a relancé le débat. Dugas est pas d'accord. On va voir comment tu te positionnes, et puis on aura l'avis de coach Courbis également.
Merci.
Dans une seconde.
Ouais, t'as fait un monologue de 1 minute.
T'as un peu pris la main avant, coach. Hein, t'as pris l'avance.
T'as été trop bon avant.
A tout de suite dans Team Dugas.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Dugas.
Rendez-vous dans un quart d'heure dans le meilleur de Team Dugas pour le journal moyen et le meilleur du blind test également. D'ici la deuxième partie de notre débat autour de Thierry Roland, était-ce le meilleur commentateur? Ça dépend des sensibilités. Vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord entre Christophe Dugarry, Captain Larquet, son partenaire historique aux commentaires, coach Courbis, Julien Cazard et Gilbert Bribois. On est en train de revenir sur la carrière de Thierry Roland, commentateur mythique. Était-il le meilleur? Alors Gilbert nous a fait un plaidoyer. Rendez-nous des Thierry Roland
aux commentaires. Oui, Monsieur Foot, c'était génial.
Voilà, alors ça c'est en 76, hein, le fameux Monsieur Foot.
Il avait tellement raison.
Avec Twitter, attendez les gars, soyez pas naïfs, avec Twitter aujourd'hui, le Monsieur Foot, vous êtes un salaud, mais alors laisse tomber.
Bien sûr. Et puis il y a plein de sorties aussi. Il aurait été suspendu d'antenne aujourd'hui.
Excusez-moi, il y a deux lits, ils ont un grand appartement.
Du racisme.
Moi je suis fan. Hein. Ah non mais tu prêches à convaincu. Hein.
Voilà. Ah mais là je t'annonce qu'aujourd'hui ça passe plus. Non, mais aujourd'hui, ça ne passe plus.
Dites-moi, mon petit Jean-Michel, qu'est-ce qui ressemble à un leak?
Non, un Coréen qu'un autre Coréen. Il y a
qui ressemble plus à un Coréen. Une fois, il avait dit les arbitres gallois, ils n'ont sûrement pas sucé que de la glace. Des trucs comme ça,
c'était,
aujourd'hui.
Ça, c'était un. Ça, c'était un.
T'appelles ou pas?
C'est énorme. Ça, c'était à Saragosse. Un Saragosse camp. Il me dit, mais celui-là,
j'en ai plein des
camps. Mais celui-là, il faut me l'empailler. Il m'avait dit.
Il y en a eu plein. France-Sénégal, bravo à Patrick Vieira de jouer comme ça contre ses cousins. C'est quand même incroyable.
Non, mais là, il n'y a rien de choquant. Bah, il est d'origine sénégalaise.
Oui.
Ah, mais c'est pas ses cousins.
Rien de choquant, bien sûr. Ils sont...
Mais n'importe quoi.
Mais... Si c'est un espagnol, non, mais si c'est un espagnol, le mec, il est d'origine espagnole. Luis Fernandez, on disait ça, tu vois. Oui. Il faut arrêter de tomber dans le délire non plus.
Très bien. Merci, Coluche. Sinon, il y a des moments.
Le seul point en commun que j'ai avec Coluche, c'est que j'adore faire de la moto et que j'en fais aussi bien.
Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Bon, alors évidemment, donc Monsieur Foot, ça avait fait tout un tollé. L'arbitre tunisien lors d'Angleterre-Argentine.
T'es pas emmerdé quand il te pose la question.
Oui, bah c'était pour toi, clairement.
Ça passe crème.
Dites-moi, mon petit Jean-Michel.
T'as répondu quoi d'ailleurs?
Rien.
Oui, blanc, très long. Alors juste Dugas, tu disais que t'étais pas d'accord toi avec Gilbert là sur son...
Non mais Gilbert, faut faire commenter les matchs par les chevaliers du fiel. Alors Gilbert, si j'ai bien compris,
non,
si
tu veux...
c'était le cas.
Non, non mais voilà, au bout d'un moment, moi je veux bien qu'il y ait des expressions, qu'on s'en souvienne, que si que là, mais j'appréciais ces expressions parce que de notre côté j'avais Jean-Michel qui était là pour me parler football. Moi c'est comme l'exemple de Paganelli.
Est-ce que tu reviens sur les 10 dernières
années? Ah oui, Paganelli, c'est...
Non mais c'est comme l'exemple de Paganelli. Moi je suis désolé. Paganelli, il y a des gens qui l'adorent, tant mieux, et il fait rire, mais je trouve que quand t'as la chance comme lui d'être au bord du terrain et d'interviewer des mecs et qu'on apprend rien, moi quand je regarde un match de football, ça m'intéresse aussi. Alors la passion, l'ambiance, l'atmosphère, les bières, les pizzas avec les copains, j'ai envie d'apprendre des choses, de savoir pourquoi une équipe elle domine, pourquoi une équipe elle domine pas, des choses, ça me plaît.
Mais je suis d'accord avec toi, il faut trouver le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que Thierry, Jean-Michel, tu avais Jean-Michel qui était en gros le professeur de football, avec en plus sa voix et son ton à lui, et t'avais Thierry Roland.
Enthousiaste, il y a toujours.
Et t'avais Thierry Roland à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, t'étais satisfait des deux côtés. Tu vois? Et oui. Aujourd'hui, y a, tu vois, les punchlines de Thierry Roland, les histoires un peu dingues, et puis la joie de retrouver ces mecs-là. Franchement, depuis 10 ans, là, tu l'as, ça ?
Non, mais on pouvait se permettre des conneries qu'on ne peut plus se permettre maintenant. Nous avions un copain qui s'appelle José Coves et qui faisait les
courses.
Les courses sur Europe.
Ouais.
Il était à Europe. Coves, il a été le soigneur de 25 équipes.
Ah oui, à chaque
alors,
fois.
Alors quand il était à Pola, on dit allez, voilà, Joseph Coves qui rentre avec.
Voilà. Il est quoi?
Et quand on était en Russie, et voilà le Job Kovezov, voilà, enfin, et Kovez, il a été le soigneur de 25 équipes. Et jamais personne ne s'en est aperçu. Jamais personne.
Ça, c'est encore possible aujourd'hui.
Non, mais t'avais, c'est sympa,
oui, c'est puis, t'avais, ouais. Puis t'avais un côté, c'était la France en fait.
J'avais la vie de Coach
Thierry Roland, il est arrivé avec son, c'est ça, ses espèces de vestes à carreaux. Là, d'un autre âge.
Ah, ça, c'est vrai,
aujourd'hui,
c'est
qu'il a vendu, à Monsieur Duhamel qui est sur BFM.
Alain Duhamel. Bien sûr.
Alors que maintenant, ce qu'on veut, c'est des petits gars formatés, tu vois, cravate, machin, propre sur eux. Enfin, c'est plus la même époque. Moi,
des vieux. Coach, tu penses de tout ce qu'on dit là pour l'instant?
Ben, c'est très intéressant de vous entendre. Et en plus de ça, ça me rappelle pratiquement que des bons souvenirs. Puisque j'ai eu la chance, même si je préférerais être plus jeune, j'ai eu la chance de le voir démarrer. Et il démarre, il doit avoir aux alentours de 25 ans, à peu près dans cette Coupe du Monde au Chili. Moi, c'est le souvenir que j'en ai, parce que Pelé était blessé. Ouais. On attendait tous de voir Pelé. N'oublions pas que dans cette période-là, on n'avait même pas la télé en couleur.
Et donc, qu'on ne voyait pas les matchs en direct.
Voilà, donc et on voyait que des morceaux de matchs. Mais moi, dans mes souvenirs et dans mes oreilles, ce gars-là, c'était pas seulement ce qu'il disait, c'était le timbre de voix, c'était pour moi la voix du football. Je le mettais dans la comparaison avec Roger Couder pour le rugby, et lui, c'était pour le football. Après, l'époque avec Michel, ça a été une évolution, ça a été une progression, et ça a été un petit peu les duos, et celui-là de duo, je l'ai trouvé plus que complémentaire.
Et Gilardi, tu le trouvais comment, Roland?
Remarquable. Ah, très bon.
Bah oui,
très
bon aussi. Hein.
Mais c'est un autre style. Hein. C'est totalement un style. Beaucoup plus réservé sur le côté.
Il avait souvent la phrase juste. Il avait souvent la phrase juste.
C'est vrai, mais il y a un truc quand même avec Thierry Roland.
À la différence de Thierry Roland, pour moi, c'est que pour moi, il est bien avant Thierry, pour représenter le football et être, je dirais, la voix du football, parce que son timbre de voix était quand même particulier et je le trouvais très plaisant.
Thierry représente les copes derrière les buts, et que Thierry Gilardi représentait plutôt les tribunes latérales.
Mais alors, oui, c'est-à-dire que Gilardi, à la fin de ses phrases, j'avais pas l'impression qu'il pouvait dire vas-y, Jackie, remets-moi une suze. Alors qu'il y avait un côté comme ça chez
Mais Thierry. T'as raison, Julien. Et d'ailleurs, t'en as parlé tout à l'heure, on peut peut-être insister là-dessus. Il était supporter à 1000%. Alors, évidemment, des clubs français, de l'équipe de France, c'était pas outrancier, mais c'était vraiment appuyé, marqué, ce qui l'est peut-être moins aujourd'hui.
Mais les gens, ils veulent
aujourd'hui,
quoi ?
quand il y a une erreur d'arbitrage contre un club français, on crie pas au scandale non plus comme à l'époque. Enfin là,
les gens, ils veulent quoi ? Arrête, Gilbert, tu peux pas dire ça. Regarde Thierry Henry, la main qu'il a fait Thierry Henry, c'est en France qu'on l'a le plus défoncé. Les gens, ils veulent quoi ?
C'est pas les gens qui aiment le foot.
Attends, moi je te parle pas des gens qui analysent après ou avant, ou des émissions. Je te parle de pendant le match. Là, on parle de pendant le match.
Non, je sais pas. Tu as fait une grosse compétition du gars dans les tribunes de presse.
Oui,
Coupe du Monde 2006, ouais.
Bon.
D'ailleurs, il y avait Thierry, parce que moi, je faisais le duo avec Christophe Joss, et Franck Leboeuf le faisait avec Thierry.
Je vous assure, quand vous êtes dans les tribunes de presse d'une Coupe du Monde, et si vous êtes entre un commentateur colombien et un commentateur argentin, je peux vous dire qu'on leur arrive. Question chauvinisme, mais on ne leur arrive pas à la cheville.
Oui, mais est-ce que ça ne s'est pas perdu avec le temps? Est-ce que justement, est-ce que ça s'est pas perdu avec le temps? Est-ce qu'on a pas aussi aseptisé les journalistes?
Il y a qu'en France, il fallait être aseptisé. Il fallait pas, surtout pas être chauvin. Et surtout, c'est très Racing Club de France, ça.
Et surtout, on a mis sur un piédestal absolu l'objectivité du commentateur, comme du coup, il fallait être. Mais en fait, le journalisme, c'est pas l'objectivité, c'est la gestion de la subjectivité. Réfléchissez à ça. Hein.
Magnifique.
Non, mais le foot,
c'est Daniel qui t'a.
On ne peut pas le vivre comme ça. Personne n'est neutre, en fait. Personne n'est neutre. Il faut arrêter de se mentir. Et l'avantage de Thierry Roland à l'époque, c'est que
lui n'était pas neutre.
Voilà. Et c'est ça qui fait son succès, en fait.
Éric Dimeco est assez neutre quand il commente.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais après, le truc, c'est quand il y a une erreur d'arbitrage, je trouve que parfois, c'était un peu exagéré. Tu vois, l'erreur d'arbitrage contre le club français, ça prenait des proportions dingues. Et on ne voyait que l'arbitre.
Sa télé, il réagit comment?
C'est ce que je dis. Donc, c'était vraiment le supporter au micro.
Mais Thierry, quand il essayait de parler technique, il dit de sacrées conneries aussi.
Ça, c'est vrai. Il s'en foutait.
Ah oui, non, il s'en foutait, c'est très bien, mais heureusement, ok, je suis d'accord, mais moi aussi, mais, si tu lui avais heureusement que t'étais là, pour amener quand même, parce que des fois, il y avait des trucs.
C'était complémentaire.
Ouais. Non, mais tu sais, là où tu vois vraiment une vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, le duo qui est sur TF1 avec Lisa et Marc Anton, tu sens qu'eux, ils sont beaucoup moins chauvins parce que, par exemple, il y a eu le pénalty, je crois, en finale de la Croatie. Tout de suite, ils disent, oh là là, c'est un peu sévère, tout ça, tout de suite. Ouais, mais Thierry, il aurait dit, mais pourquoi il n'y a pas carton rouge en plus? Exactement. Il doit être sorti, le mec. C'est un scandale qu'ils sont encore sur le terrain, Perisic. Mais c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, on fait très attention à dire, est-ce que c'est pas généreux pour la France? Est-ce qu'il y a vraiment faute? Avant, mais jamais, jamais ça serait arrivé.
Oui, bien
jamais.
Sûr.
On est content. On voit déjà comment ça va faire dès qu'on marque un but. On revient à 2-1, c'est formidable.
Et puis c'est toujours marrant quand on réécoute les buts de l'époque quand même.
Donc on entend
à peine un mot avant l'action. On a le nom du joueur et but. Et ensuite, captain qui décrit tout le but, hein, derrière. C'est quand même.
Si je vous entends bien, c'est le problème alors du journaliste. Il faut trouver un journaliste capable d'être aussi bon. C'est pas le problème.
En fait, Duga, moi je vais te dire mon avis.
L'erreur, elle vient des journalistes.
Je ne sais pas, je vais me faire des.
Attends, parce que j'essaie de comprendre ce que dit Duga.
Mais j'ai compris ce qu'il veut dire. Je vais finir sa réflexion à sa place. Tu vas voir, si je peux me parler.
Ça fait beaucoup là d'un coup.
Une nouvelle fois, je
le débat. Entre merci.
Non, mais je veux pas que les journalistes qui sont actuellement commentateurs me détestent. Mais en fait, je ne sais pas si aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir des journalistes en fait. Moi, j'aimerais. Tu vois, c'est pas un travail. Pour moi, c'est pas fondamentalement un travail.
De journaliste.
Demain, ouais,
toi, tu veux les Chevaliers du Fiel ou Dino et Charlet qui commentent les matchs.
T'as un passionné de foot qui a un talent pour ça.
Références jeunes encore.
Demain, excusez-moi, mais si Julien Cazard commente un match de foot avec Jean-Michel Larquet, ça peut donner quelque chose. Moi, je vous le dis.
Des plaintes au bout de 5 minutes.
Je suis pas sûr qu'il y ait certains qui nous fassent confiance.
Réfléchissez au profil.
C'est long, 90 minutes.
Réfléchissez au profil.
C'est très long.
Donc aujourd'hui, on compare Thierry Roland à Julien Cazard. Pourquoi pas Gilbert, je te laisse la comparaison.
C'est ce que vous voulez en fait quand vous êtes devant votre télé.
Oui, on veut vibrer.
C'est con parce que c'était bien jusque-là, Gilbert. Franchement, t'étais au top.
Il a osé dire qu'il allait dire les choses à ma place. Ouais, la connerie qu'il a sortie.
Il aimait
les apéros, Thierry.
Mais pourquoi le problème, c'est les journalistes en fait, les gars. J'ai toujours pas compris.
Thierry, à 10h du matin ou à 11h ou à n'importe quelle heure, il regardait quand même sa montre.
Oui.
Ce qui servait strictement à rien. Un petit whisky avec deux glaçons, s'il vous plaît.
Ah, d'accord, ok.
Je te reconnais.
Et après, il a mangé une pizza.
Avec deux glaçons. Non, mais au resto italien quand même. Un resto italien obligé.
Tout le temps, voilà.
Obligé.
Non, mais pourquoi le problème, c'est le journaliste? Parce que Gilbert est en train de. Vous êtes à peu près tous d'accord, si j'ai bien compris, que ça manque, sa façon de faire les expressions.
Mais ça, c'est
le journaliste. Donc le problème, c'est pas celui qui fait l'analyse technique, le problème. Dans ce que tu dis, Gilbert, tu en veux un petit peu aux journalistes qui se lâchent pas assez, qui sont pas assez parti pris, qui sont pas assez.
Allez-y, les gars.
Oui, c'est ça.
Tout le monde a un avis. Donnez votre avis. Soyez vous-même. Arrêtez de vous brider et de serrer la cravate trop fort.
Aujourd'hui, quand
la prise des antennes et qu'ils te disent bon alors nous avons l'équipe de n'importe quelle équipe qui va se présenter dans la formation annoncée et elle va jouer dans un 4-4-2 avec un milieu en losange avec une pointe basse. Tu crois qu'on s'en fout pas un peu
grave.
Peut-être, mais moi ça m'intéresse, écoute.
Non, mais ça c'est la prise d'antenne, quoi.
Oui, t'as raison. Oui, non, mais peut-être qu'il faudrait le faire différemment, t'as raison.
Honnêtement, je pense pas que le téléspectateur il attend de ça véritablement.
Et alors vas-y, alors qu'est-ce que tu penses que
et
tu voudrais faire?
Rien que pour Jeannot Séguier qui avait rien demandé, qui était
sympa. Moi, c'est Grégoire Margoton. Je trouve que Gilbert, il fait une fixette là sur le pauvre Grégoire Margoton et sa cravate là. Je trouve ça un peu exagéré.
Pourquoi tu parles de Margoton?
Je sais pas.
Bah, excuse-moi, mais Jeannot, il a sa personnalité, Jeannot. T'aimes ou t'aimes pas, mais Jeannot, il a sa personnalité.
Moi, j'adore. Voilà. Mais tu disais les gens qui avaient des cravates trop serrées.
Pas de cravate,
c'est pas Jeannot, ça.
Non, mais je crois que le problème, il manque. Les journalistes, on peut leur reprocher de manquer parfois un peu d'humour et de se lâcher, c'est ça.
Exactement.
Voilà, un peu d'humour,
soyez
un peu de recul.
En fait.
Ouais.
Faut pas aseptiser, faut pas lisser le.
Je voudrais pas que sur RMC, on passe pour des ovnis, comme c'est le cas.
Excuse-moi. Moi, j'ai
le chauvinisme.
Moi, quand un jeune commentateur vient me voir, il me dit à ton avis qu'il faut faire. Je dis mais sois toi-même. Ne copie pas les autres. Aujourd'hui, tout le monde veut copier le modèle Canal.
Tu prends combien de l'heure pour les écoles de journalisme?
Attends.
Rien.
Gilbert,
on va monter avec Jean-Louis. On va monter un petit truc là. Oui. Vous pour les journalistes.
Dis-toi que sur Canal, il y en a un qui a eu le malheur une fois de tenter une vanne pour dire Plégé, c'est pas Valladolid et c'est pas Riron. Il s'est fait déglinguer. Je pense que ça calme tout le monde.
C'est vrai. Stéphane Guy est une vraie personnalité.
Stéphane Guy, c'est une vraie personnalité.
Mais il se fait défoncer.
On n'aime pas, mais il a cette personnalité. Il y va jusqu'au bout. Bravo Stéphane Guy.
Gilbert,
bravo Stéphane Guy. Je suis d'accord.
Gilbert, est-ce que tu aimes Paganelli?
Non, mais Paganelli, c'est pas un commentateur.
Il adore.
C'est un clown d'entreprise.
Il adore, il se fait les vidéos des sketchs de Paga, Gilbert. Je le vois parfois sur son bureau.
Paganelli, c'est pas possible. On le connaît tous par ailleurs et tout. Paganelli, ça fait partie du show. C'est-à-dire, ça fait partie de l'ensemble du show, si tu veux. C'est un élément du show.
Oui, mais il est pas commentateur. Hein.
Ouais, mais non. Enfin, il est pas commentateur. Il parle parfois plus que le commentateur.
Il te fait marrer, tout le monde.
Mais non, mais justement, au bout d'un moment, il y en a une ou deux de temps en temps, ça peut me faire rire. Écoute, mais quand à chaque fois, c'est la même chose.
Un bon match de Ligue 1 dimanche soir. Des fois, t'es bien content de l'avoir. Pour au moins avoir une petite respiration.
C'est marrant. À l'époque où tu commentais, je trouve qu'il parlait pas plus que le commentateur du gars Paganelli.
Non, mais je trouve que c'est une chance d'avoir un mec au bord du terrain quand t'as la chance de voir d'avoir des infos, des trucs comme ça. Alors que Paga, ça m'a fait rire. Il y a plein d'expressions qui me fait rire. C'est un garçon adorable et tout. Mais je trouve ça comme au bout d'un moment un peu dommage.
Ça va être frustrant. Je te comprends.
Alors, on embrasse quand même Laurent Paganelli, Grégoire Margoton.
Je l'adore.
Ce qu'on a cité depuis tout à l'heure. On a rien contre eux. On a fait un débat libre. Voilà.
Je m'en sors assez bien. Moi, je m'en
sors. Bah toi, on n'a pas le droit de critiquer.
T'as été bon. Il faut le reconnaître.
Jean-Michel fait partie des rares.
Oui. Non mais attends, on s'arrête là.
Des rares consultants qui à l'avance te disaient ce qui allait se passer. Et ça, c'est quand même la qualité ultime du consultant.
On continue de le répéter après le but.
Non mais on a retenu toutes les fois où ça a marché. Il y a plein de fois aussi où il a lancé un but qui n'est jamais arrivé. Voilà, ça vous l'avez oublié.
Allez,
on arrête là dans un instant.
Ça c'est toujours passé.
Sur le contre français qui peut être reparti. Gourou qui donne. Ah oui, tiens, donne à Zidane. Il est pas en jeu, Zidou. Il va partir seul derrière Casillas. Zidane face à Casillas. Zidane qui dribble le fouillage. Zidane qui frappe.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Encore un gros quart d'heure à passer ensemble dans le meilleur de Team Duga. On a au programme pour vous le blind test et le journal moyen d'Adrien Aigouin.
À la une du journal moyen de Team Duga, aujourd'hui un niçois d'RMC nous offre un joli lapsus ce matin. Le supporter numéro 1 de l'OGC Nice, Jean-Michel Larquet, se lance dans la chanson. C'est une information étonnante, mais pourquoi pas.
Il est jamais trop tard.
Ouais. Et puis, petite question pour Jean-Louis, je sais que tu adores ça si on a le temps.
Ouais, je suis trop fort.
10 juin. Le 10 juin, c'est une date assez importante pour le foot français. Assez importante. Vous écoutez RMC, c'est le 335e journal moyen de l'histoire de Team Duga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aigouin.
J'ai un magnifique lapsus pour commencer, s'il vous plaît. L'auteur est un passionné de foot, grand supporter de l'OGC Nice. Il travaille à RMC depuis 1953. Alain Marchal. Ah, oui, Alain Marchal. Le grand Alain Marchal. Il remercie une auditrice qui vient de gagner un cadeau dans les grandes gueules. Alain Marchal.
Et à bientôt sur RMC dans les GG. Saluez votre compagnon pour nous. Et vous pourrez gagner avec Brunet et Neumann tout à l'heure entre midi et deux en direct sur RMC. Quel challenger pour 2022.
T'as vraiment dit ça? T'as dit en direct ça.
Oui, tu as dit en durex, Alain Marchal. Je ne sais pas à quoi pense mon petit Alain Marchal quand il fait son émission Les Grandes Gueules, mais il est coquinou quand même, Alain.
Ah oui, il pense à se protéger, c'est très bien.
Ce qui est très bon, écoutez la suite.
Il est beau gosse en même temps.
Ouais, alors il a de la mauvaise foi. À la Jérôme Rotten. Au début, il n'assume pas du tout, en fait. Alain Marchal, il n'a pas dit durex pour lui.
Tout à l'heure, entre midi et deux, en durex sur RMC. Quel challenger pour 2022
T'as vraiment dit ça?
T'as dit en direct.
On l'a tous entendu.
C'est pas vrai.
Genre sans transition.
On peut s'arrêter un instant sur ce lapsus, lapsus sur Durex.
Écoutez son explication. C'est les précautions actuelles, je pense.
C'est tout sanitaire qui commence à me peser. Tout de suite. Avec les GG.
C'est le taux sanitaire qui me commence à me peser. C'est la vie d'Alain Marchal et on l'embrasse.
Ça fait partie des gestes barrières.
Supporter de l'OGC Nice. C'est le geste barrière par excellence, oui. Jean-Louis. On embrasse Alain et puis bientôt objectif Ligue des Champions pour l'OGC Nice, Alain Marchal. Sans transition, en Durex, dans le journal moyen donc, direction Saint-Etienne. Et Jérôme, ça ne t'a pas échappé, mon petit Jérôme. Tu as vu ça, Dugas, je ne sais pas si tu as vu ça.
Non.
Initiative du groupe de musique corse, groupe mythique. Imovrini, Jean-François Bernardini, le leader du groupe, a écrit une chanson pour rendre hommage à tous ceux qui luttent contre la Covid-19. Il est proche d'un Stéphanois, monsieur Bernardini, qui s'appelle Bernard Champion, qui est aujourd'hui le responsable des stages d'été à l'AS Saint-Etienne. Ils se sont mobilisés, ils ont mobilisé 7 personnalités stéphanoises qui chantent dans ce clip. Le clip s'appelle « Chanson d'après ». Les deux premiers que l'on va entendre, c'est le président des Verts, Roland Romeyer, c'est lui qui chante en premier. Et puis attention, il sera suivi après un peu plus tard par Jean-Michel Larquet. Attention, Roland Romeyer, la début de la chanson. Roland Romeyer, le vrai Roland Romeyer.
Il a du gaz, là,
ouais, écoutez.
Aux énergies fossiles.
On a du gaz.
Non, c'est vrai.
C'est pas mal. Gaz qu'en interview.
C'est pas mal. La suite, je dis c'est pas mal parce que la suite, c'est Jean-Michel Larquet.
Tu l'entends comme moi, le poids de la détresse. Et Marie Laforêt. Chantant la tendresse.
Eh oui, Marie Laforêt.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Je rappelle que c'est pour la bonne cause, donc vous pouvez vous moquer, mais en entendant, ils se sont mobilisés. Jean-Michel, voilà.
T'es pas obligé de chanter pour te mobiliser quand même.
C'est un joli geste. Le refrain de la chanson, s'il vous plaît.
Avec l'oseille qu'il a, l'arc, il peut pas payer là.
Donc ça c'est le refrain que vous entendez. Et puis il y a un autre, il y a un ancien joueur de foot aussi qui fait partie du staff de Saint-Etienne aujourd'hui qui participe. Ancien joueur de Bastia, Julien Sablé qui chante même en Corse. Pas mal. Julien Sablé appliqué, j'ai envie de dire au micro. Pas mal.
T'as pas joué avec lui, Jérôme?
Non. À Bastia, là, vous étiez pas ensemble?
Non.
Non, il a joué avec moi, mais il m'a regardé, quoi.
Bon, bravo en tout cas les Stéphanois, bravo Imovrini, bravo Jean-Michel. C'est sympa, c'est pour la bonne cause.
Bravo!
Bah oui! Oui!
Bah oui, mais fais un chèque, Jean-Michel, et écoute-nous, fais un chèque, ne sois pas ridicule comme ça.
Vendredi, dans Rantaine Régal, on le passera à Jean-Michel, puis il jugera sa prestation.
Non, interdit. Alors là, je peux vous dire, on met pas ça, mais ça va.
Sans transition.
Et vous dites que c'est bien en plus.
Non, question pour.
Génial.
Moi, j'adore.
Moi aussi.
Question pour Jingle. La question pour Jingle s'est effondré.
Ah oui.
Que s'est-il passé, les amis, le 10 juin dans le foot français? A.
98, c'est le début de la Coupe du Monde.
Pas très longtemps. 10 juin, 98, c'était le 12 juin d'ailleurs, 98. Le 10 juin, non, très simple.
Le match d'ouverture, c'est le 10 juin.
10 juin 2016, l'Euro 2016, match d'ouverture, vers 22h50, souvenez-vous, match d'ouverture, France-Roumanie, 88e minute, paillettes. Un partout, les bleus ne sont pas très bons, ça sent mauvais. Jérôme Rotten s'apprête à défoncer Didier Deschamps dans l'after par la suite.
Jamais.
Mais 87e, N'Golo Kanté a le ballon.
Avec le ballon pour Kanté, Kanté qui la met sur Payet, on s'approche. Payet, la frappe. Oh, qu'il est bon! Oh, qu'il est bon ce but! Dimitri Payet, c'est lui, l'équipe de France, et qui va permettre.
Magnifique but du gauche de Dimitri Payet en dehors de la surface. La lucarne, quand même, un des plus beaux buts de la carrière de Payet pendant un Euro. Rendons à Payet ce qui appartient à Payet, victoire de 2-1. Les Français iront en finale cette année-là.
Nous manquer, merci, Jeannot. Adrien. Pourquoi il nous manquer, Jeannot?
Il est là, Jeannot.
Mais il n'arrête pas.
Il est là.
Je crois qu'il arrêtait.
Il sera là pour la Ligue des Champions à bloc, là, au mois d'août.
Jean-Louis Castu me disait que.
Non. Il est indéboulonnable, Jeannot. Et on se régale de l'entendre. C'est pas ça que je te disais.
D'accord, bon, ça va.
Je parlais de Dugas. Bon, merci Adrien. À demain pour le journal moyen. Voilà pour le journal moyen. On va garder 5 minutes de blind test pour se détendre. Donc, deux équipes. Julien Cazard, Franck Leboeuf ensemble.
Ah.
Les humoristes.
Ah ouais.
Et Christophe Dugarry, aidé par Antoine Varnier, qui est
est avec moi.
Bonsoir à toi.
Salut Antoine.
Salut champion.
Antoine, est-ce que tu peux nous jurer sur la tête?
Oui, oui.
Non, t'as combien d'enfants? T'en as qu'un?
J'en ai deux.
T'en as deux?
J'ai rien vu.
Franchement, t'as rien vu?
J'ai rien vu.
Sur la tête des enfants.
Je prépare pas le blind test.
J'ai tellement de travail en avant.
Tu peux dire Antoine, tu peux dire les réponses directement sans le dire dans l'oreille.
Oui, voilà, bah, c'est ça. Coup, voilà. Ouais. Alors on y va, vous connaissez le principe, hein, une chanson, ça dégaine. Derrière une question foot.
Oh là, je
pense qu'Antoine va dégainer.
Lady Gaga.
Bien joué.
Oui, Dugas.
Ah, bravo.
Et là, personne ne se souffle. C'est génial.
Non, non.
Ouais, je me méfie quand même.
Ou du moins, pas de Paris. Très bien. 1-0, donc.
Est-ce qu'il y a ta femme juste à côté de toi, Christophe?
Non, je vois pas d'exemple.
Non,
ah, d'accord. Okay.
Lady Dugas. Lady Gaga n'est pas là.
Lady Dugas.
Poker Face, nom de la chanson. On cherche donc un joueur qui a eu des gros gains au poker.
Dorasso.
Dans son carrière.
Neymar.
Non, aucun de ceux-là. Un joueur passé par Nice, Arles-Avignon, Monaco, Marseille et Bordeaux.
Non, Bordeaux.
Pas Madar, pas Loco. Trois sélections en bleu.
Jean Yéti.
Champion de France en Ligue 2 avec Sochaux, vous êtes nul. Finaliste de l'UEFA avec Marseille.
Sosé.
Non.
Myriam.
Qui a dit Myriam?
Mathias.
Oui, Mathias, bien joué. Mathias, bonsoir d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ça part en vrille.
Mathias, tu es avec l'équipe de Julien et de Francky.
Ah, bah c'est
bien.
Et
il y a Laurent également. Laurent, bonsoir.
Salut Laurent.
Tu es avec Francky et Dugas. Voilà, oui, excusez-moi les gars, j'étais emporté par le fait qu'Antoine Varnier soit avec nous.
Il a gagné combien, Kamel Meriem?
Il a gagné 80 000 euros. Au poker.
Attends, mais Neymar, il a gagné 10 fois plus. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Mais j'ai pas choisi de trouver Neymar.
Ah ouais, d'accord.
Pourquoi tu...
J'adore le
tu m'agresses, toi.
Oui, t'as droit, il a le droit de demander et de contre Meriem.
Je demande ce que je veux.
Bah oui.
Oh, mais Julien, il veut donner une réponse et que ce soit la réponse que j'ai décidée.
Julien, détends-toi, on a égalisé. On a égalisé.
Tu fais le malin. Pas trop malin.
Tu me fais pas peur.
On va se taire l'alcoolique, là.
Ouais.
Allez, on y va, nouvelle chanson.
Ah, c'est Dr. Dre.
Mais oui, Antoine, il est là.
Ouais, mais ça, c'est les trucs de Jones.
Antoine,
c'est les années 90.
Oui, c'est Jones.
Ah, bah, truc de Jones. Moi, j'ai arrêté la musique à partir de 90. Moi,
Julien Dre, j'aurais trouvé.
Oui, j'ai arrêté le foot.
Dr. Dre, style Dre. Qui était surnommé le docteur? Un joueur.
Doc River Viali.
Manu Petit.
Non, non.
Manu Petit.
Non. Ah, Socrates.
Et oui, Francky, Docteur Socrates.
Je l'avais en plus.
Ah ouais.
Manu Petit. Ça fait deux partout, c'est un match magnifique.
Éventuellement le gynéco. Éventuellement,
il y a clairement l'équipe musique Antoine et Dugas et l'équipe foot Julien.
Bah, ouais.
Nouvelle chanson, c'est pas facile.
Ah, pour Dugas, c'est dur. Ah, je sais ça. Tant.
On peut écouter sinon.
Comment?
Mort. Michael Mort.
Oui, Michael Mort. Bien joué, Antoine.
C'est Michael Moore, ça? Moi, je connais
Michael Moore. Allez. Pas Michael Moore.
Michael Moore, moi, je connais celui qui fait les...
les docs, effectivement. Ouais, bah, ça fait 3-2 pour les musiciens du Gary Varnier.
Ouais.
Sorti en 2012, donnez-moi un des deux meilleurs buteurs cette année-là de D1. Il y en a deux.
2012.
Non.
2012. Benzema encore?
Non.
Déjà parti.
Un champion du monde. Non.
Trezeguet.
Non.
Un champion du monde quoi?
2018.
Chamac.
Ah, Giroud.
Oui, Giroud, Antoine.
Ah oui, avec Montpellier.
Chamac, champion du monde 2018.
Ah bah tiens, Chamac, voilà du gars en moins bien. Là, voilà, Chamac.
Très bien.
Chamac, c'est un peu du gars en moins bien.
4-2. Les artistes, vous pouvez
tout
vous
faire. Tout à l'heure, il cherche un mec en moins bien que moi, mais il fout ce type.
Ça. Allez, on y va.
Ah, c'est...
Mika.
Oui, bien joué,
Julien est un artiste aussi. Il est capable de trouver des chansons musicales. Bravo. Enfin, des questions musicales. 4-3.
Michael Madar. C'était ça.
Landreau.
C'était ça. C'était Michael Madar, non?
Bah, je voulais juste demander à un joueur qui est prénommé Mika.
Michael Madar.
Landreau, Landreau.
4-4, on revient.
Ah, ils ont anticipé.
Oh, on est bon.
On va donc faire une dernière chanson.
Allez.
Nirvana.
Oui, Nirvana, bien sûr.
Bien joué.
C'est Laurent.
C'était ma
jeunesse. Bravo Laurent, ça fait 5-4. Dernière question foot, donc sortie en 91, qui est 3ème de D1
Monaco,
cette année-là.
Auxerre,
Antoine.
Ah, bravo.
Antoine,
là, c'est le décalage.
Là, il mixe sur le décalage.
Victoire donc de l'équipe Dugas.
Bravo.
Portée par Antoine. Et on embrasse celle qui est à côté de Dugas. Oui, Julien.
Lady Dugas.
Lady Dugas.
Je reviens en studio bientôt parce que c'est trop la carotte de toi.
Mais c'est le jeu, malheureusement.
Et je vais te faire te calmer un petit peu, toi, parce que tu te racontes un peu.
Et pourquoi on prend l'accent marseillais quand on a
parce que quand t'as vu notre violin, c'est plus impressionnant que de dire je vais te taper.
T'as raison. Merci Julien, à demain dans Team Dugas. Merci Francky Dugas. Demain, 18h, retour de Team Dugas. Laurent, on t'envoie bien sûr un t-shirt RMC pour avoir gagné ce blind test. Voilà pour le blind test, le meilleur de Team Dugas. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain, 18h, en direct avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team pour commenter l'actu du foot et se remémorer des moments historiques. Tout de suite, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC, 18h-20h, le meilleur de Team Dugas.